Bonjour, merci d'être donc venu pour cette deuxième partie de donc, cette deuxième soirée de séminaire sur donc, l'esthétique et la philosophie du double et du doublement à la Maison populaire de Montreuil. Maintenant, donc, c'est le tour d'Éric Ziobel donc, de prendre la parole pour son intervention. Éric Ziobel est metteur en scène et directeur de l'école de théâtre Art en scène et de formation professionnelle d'acteur à Lyon. Et donc, il va nous parler de la notion de double et du doublement, donc du point de vue théâtral et du point de vue de l'acteur, en parlant notamment du mime. Donc, je lui laisse immédiatement la parole.
Bonsoir et merci. Alors, merci de m'avoir invité à ce séminaire. Pour moi, c'est un exercice aussi, je vais dire, initiatique, parce que j'ai, un peu comme Diogène, il y a un moment où j'ai laissé de côté la philosophie pour me mettre à marcher, pour me mettre à bouger. Et donc là, c'est un retour. Voilà, au début, ça brasse un peu. Voilà, moi, ça m'a pas mal brassé de revenir à la pensée, et en tout cas, une pensée assise. Voilà, donc je vais essayer de me retenir, de pas trop bouger, de rester sur mon siège bien gentiment. Alors, en préliminaire de cet exposé, je voudrais situer ma parole donc sur le plan autobiographique. Moi, je suis metteur en scène et je travaille à Lyon. Et mon domaine d'activité, c'est le clown, le théâtre, le mime. Et puis, j'ai été pas mal aussi intéressé par l'improvisation et l'écriture scénique en direct. Voilà, je vais axer mon exposé sur ce que je connais pour l'avoir pratiqué. Et mon travail se situe dans le jeu, je fais un petit jeu de mots en disant ça, dans le jeu qu'il y a entre théâtre et mouvement. Je pense qu'il y a un nœud qui se joue et qui, moi, m'a toujours intéressé. Alors, j'ai travaillé avec des danseurs qui faisaient les acteurs, des acteurs qui dansaient, des mimes parlants, des magiciens chanteurs, des enchanteurs chantants. Voilà, donc c'est mon travail, ça a toujours été l'entre-deux. Et je suis directeur d'une école artistique à Lyon. Et l'idée de cette école, c'est d'être pluridisciplinaire et de s'ouvrir à différents styles de théâtre. Alors, j'étais obligé et intéressé de faire une généalogie de ces styles de théâtre, de ces pratiques du théâtre, et un portrait de famille aussi de grandes tendances, de méthodes de jeu d'aujourd'hui. Alors, je vais commencer par une lettre que vous connaissez peut-être, qui est celle du metteur en scène Olivier Py, qui a écrit dans Le Monde en juillet 2005, suite au scandale provoqué à Avignon par des spectacles qui ont scandalisé la France, parce que c'était des spectacles qui étaient peut-être plus d'images que de textes. Et alors, Olivier Py dit ça, il dit « C'est cette année que s'invente la formule théâtre de texte, qui serait passé autrefois pour un pléonasme, mais qui s'entend désormais comme une catégorie théâtrale. » Donc voilà, je pense que c'est une phrase intéressante, c'est vraiment une prise de conscience d'un changement important dans les arts du spectacle. Et je pense pas que ça date de 2005, mais bon, parfois la conscience, elle est plus lente que l'inconscient, on va dire. Voilà. On voit depuis longtemps, hein, des choses étranges sur les scènes, et on voit des spectacles où ça ne joue pas un personnage, mais on l'appelle quand même théâtre. On voit aussi des spectacles qui ne parlent pas, mais qui ne sont pas de la danse non plus, par exemple. Et depuis longtemps, parce que si on songe à Bob Wilson, à Claude Régis, Grotowski, et puis à Étienne Decroux, dont je vais pas mal vous parler, on a affaire à des personnes qui, depuis longtemps, ont apporté la preuve, par exemple, d'autres manières de faire du théâtre, quoi. C'est ce que disait tout à l'heure Monsieur Guénoun, et je trouvais que c'était bien ce pluriel-là des théâtres. Voilà, je pense que c'est assez juste. Pour distinguer les différentes pratiques du théâtre, pour y voir plus clair dans ces praxis théâtrales, j'aime bien l'idée de praxis parce qu'elles sont liées aussi à des théories, évidemment. Je propose quatre catégories. Alors, évidemment, elles sont pas étanches. Une première catégorie, c'est le théâtre d'identification. C'est le théâtre qui est animé par la notion de personnage, de jeu, où le comédien va s'identifier plus ou moins froidement à un rôle. Voilà. Donc, ça met aussi. Je mets dans cette catégorie-ci les praticiens qui vont être en questionnement et critique par rapport à la notion de personnage. Mais voilà, il y a quand même un rapport qui est fait avec la notion de personnage. Il y a un théâtre des paroles. Alors j'ai emprunté le nom à Valère Novarina au titre de son poème Essai. Et la priorité, elle va être sur la parole. Et peut-être aussi sur le souffle. Hein. Novarina parle d'acteurs qui sont pneumatiques. Et donc ce qui va primer ici, c'est d'inscrire physiquement et mentalement le texte, et peut-être de revivre, parce qu'il y a toujours cette idée de revivre et de rejeu, et de revivre l'acte d'écriture. Troisième catégorie, ce serait un théâtre organique, au sens un théâtre qui met en jeu un être organisé. C'est un jeu fondé sur l'incarnation d'un personnage également. Mais ici, le corps fonctionne de manière holistique, hein, c'est-à-dire que le corps fonctionne de manière globale. C'est un théâtre d'action hein, qui puise aux sources des traditions du jeu physique ou burlesque, la comédie d'arte, le clown, les masques, ou alors de sources ethnologiques ou religieuses, comme le travail de Grotowski, par exemple. Voilà. Et enfin, quatrième catégorie, c'est un théâtre de mouvement. Alors là, j'emprunte le nom à une compagnie de théâtre à Paris. Qui travaillent autour du travail d'Étienne Decroux, qui ont développé leur propre œuvre. C'est un théâtre où le drame est dans le corps du comédien, c'est-à-dire qu'il est vraiment incorporé. Il est de drame, on verra comment. Et le mouvement lui-même devient théâtral. Alors la question, elle est plus est-ce que le théâtre de mouvement est-il possible ? Voilà, la question, elle est plutôt comment il est possible, voilà, parce que ça existe. Alors pour revenir à notre préoccupation d'aujourd'hui, à savoir le concept du double théâtre, nous pouvons partir de cette définition du théâtre, qui est celle d'un courant très spécifique, celui de Stanislavski. Donc le théâtre n'est pas l'art de représenter, il est l'art de vivre son rôle. Donc c'est par un travail conscient, psychophysique, que le comédien met en jeu son subconscient, et la personne s'efface. Est-ce qu'il s'efface réellement ? C'est toute la question qu'on a évoquée dans la conférence précédente. Et en tout cas, les caractéristiques personnelles, la voix, la diction, le corps, les gestes, la posture, les mouvements doivent être donnés vraiment au personnage, qui n'existe peut-être pas, mais en tout cas, il ne faut pas qu'il y ait des choses qui dépassent. Hein. Il ne faut pas trop bouger. Hein. Ça, c'est des gens qui bougent trop ou qui dansent au théâtre se font un peu mal engueuler par rapport à ça. Si on s'intéresse au théâtre de mouvement, pour moi, il y a un paradigme. Alors, ça vient dans les années 60, c'est la pièce de Samuel Beckett, « Oh, les beaux jours ». Alors, c'est philosophiquement intéressant parce qu'on est devant un paradoxe. C'est un théâtre où il y a une immobilité du personnage. Voilà. Et pourtant, c'est la naissance du théâtre de mouvement, en tout cas la naissance logique du théâtre de mouvement, à mon avis. Cette immobilité, elle est centrale. Parce que le personnage il est enterré au centre d'un mamelon. Alors vous notez c'est le personnage de Winnie, vous notez au passage le jeu de mots, l'allusion de Beckett hein, en parlant de mamelon. Et c'est complètement c'est un personnage qui est au centre de la scène également quoi. Et puis autre chose aussi qui est assez intéressante, c'est que le personnage est enterré jusque au-dessus son centre de gravité également. Donc c'est tout va se passer au-dessus de la ceinture dans Oh les beaux jours. Ça donne des éclairages sur le texte. Pour moi, c'est vraiment un moment où il y a une affirmation forte du corps sur la scène. On se trouve dans une sorte de tableau, un théâtre postural. Et pour moi, ça, comme c'est du texte et c'est une image, moi ça me fait penser à une sorte de vanité moderne. Voilà, il y a quelque chose de fort là-dedans, dans cette image qui reste. Et ce que dit Peter Brook, c'est quand on sort d'avoir vu Oh les beaux jours, il y a quelque chose qui nous a... Il y a une image qui reste imprégnée dans la rétine. Hein. Alors, ce qui est aussi intéressant dans Oh les beaux jours, c'est que le corps du comédien enfin, le corps de l'actrice qui est vraiment pris dans un décor, dans de la terre, il va donner quelque chose au texte. Il va lui imposer finalement sa loi. Hein, parce que à la question qu'on pourrait poser, question philosophique très connue, qui parle, on peut répondre, c'est une femme enterrée dans un mamelon. Hein, donc c'est la voix part de là, quoi. Et je voulais faire une petite remarque aussi sur Beckett, parce que moi j'ai mis en scène Beckett. Et il y a une chose qu'on dit souvent, on dit Beckett ne laisse pas de liberté aux comédiens, hein, parce qu'il y a énormément de didascalies. Je me suis amusé à faire des pourcentages, à certaines pages on atteint 60% de didascalies, c'est-à-dire qu'on prend une page et il y a 60% de texte en italique, et le texte à dire est finalement... Et finalement, une part moindre. Est-ce que ça veut dire que le comédien n'est pas libre de son interprétation ? À mon avis, c'est au contraire, de la part de Beckett, une forme de respect, dans le sens où il vise un résultat théâtral, voilà ce qu'il veut voir sur scène. Et finalement, le comédien doit se débrouiller pour... trouver lui-même les mobiles, les motifs, les intentions, aidés par le metteur en scène ou tout seul, pour atteindre ce résultat-là. Donc c'est une forme d'écriture scénique. Hein. Et autre chose aussi, on a une partition de mouvement qui est extrêmement importante, une partition d'action qui fait que y a deux écritures finalement, une écriture scénique et puis une écriture textuelle. Voilà. Donc c'est quelque chose de... D'assez paradoxal. Et alors, quand les acteurs, parce que je me suis pas mal intéressé à Beckett, et quand les acteurs demandaient à Beckett explique-moi le personnage, pourquoi Winnie elle est là, qu'est-ce qui lui est arrivé, etc. Alors Beckett il dit non, moi ça m'intéresse pas du tout. Ça, il disait ça, c'est du Ibsen. Voilà, c'était sa manière de conjurer la question. J'avais commencé la conférence en voulant parler aussi de Bob Wilson, mais je ne vais pas trop m'y attarder, tout simplement parce que je préfère parler des choses que j'ai pratiquées. Voilà, Wilson, je le connais comme vous, comme spectateur. À mon sens, il y a une grande différence aussi, c'est que le comédien n'est pas central chez Wilson, mais il y a vraiment une écriture de mouvement que vous connaissez tous. Voilà, il y a des choses très intéressantes qui ont été dites. Et le comédien est dilué, ou en tout cas fait partie d'une composition visuelle, dramatique, cinétique, qui est beaucoup plus globale. Voilà. Mais je préfère pas en parler, parce qu'il vaut mieux centrer sur les choses qu'on connaît physiquement. Alors je vais vous parler de M. Étienne de Crous, voilà, qui est l'auteur d'une technique, qui est le mime corporel d'art dramatique. Alors forcément, s'il y a le mot art dramatique, on va avoir tendance à le ranger dans le théâtre. Voilà, c'est ce que je vais essayer de vous montrer. De Crous est un ancien élève de l'école du Vieux Colombier, qui était dirigée par Jacques Copeau. Et puis l'histoire raconte, la légende dit, enfin c'est pas la légende, c'est ce que lui raconte sur son histoire, c'est qu'il a créé le mime en s'inspirant d'un exercice qu'il faisait avec Jacques Copeau, où les comédiens avaient un masque inexpressif, un masque neutre sur le visage. Et Étienne de Crous a dit, mais ça, c'est pas un exercice, c'est un art, c'est un art à part entière. Voilà. L'histoire vient de là. De Crous était très inspiré par Edward Gordon Craig, que vous connaissez peut-être, qui a écrit L'art du théâtre. Et tous les deux, ils ont une lutte contre le théâtre naturaliste, mais je ne pense pas que c'est le plus intéressant aujourd'hui. À une époque, c'était important historiquement de lutter contre un théâtre naturaliste. Maintenant, je pense qu'on a que le théâtre de mouvement à sa place, donc ce n'est pas les choses les plus intéressantes. Mais il y a quand même une question, c'est que la question que pose Edward Gordon Craig et que De Crous reprend, c'est est-ce que le théâtre est un art ? Alors c'est une question qui est un peu oiseuse, hein, parce que je ne pense pas qu'elle est extrêmement intéressante de savoir si telle chose est, si la photographie est un art, si le théâtre est un art. Mais en tout cas, c'est une question qui va avoir beaucoup de conséquences et qui va faire naître un art, un autre en tout cas. L'idée de De Crous, c'est que le comédien, ça doit être, il est très cartésien, hein, alors c'est pour ça que vous reconnaîtrez certains, un style cartésien, mais c'est que le comédien soit comme un pilote, mais qu'il soit pas dépassé par sa machine, par le corps, qu'il soit dans son corps comme un pilote, mais qu'il soit capable de maîtriser le fonctionnement de ce corps, quoi. Alors, pour expliquer d'abord, avant de passer à la problématique du double qui va revenir dans pas longtemps, si on prend cette expression qui est très synthétique, si on prend d'abord le mot mime, De Croux arrive à un moment où justement, c'est intéressant de le dire, il dénonce complètement la pantomime qu'on connaît, la pantomime de Bureau, et que Marceau a fait renaître, c'est par exemple la pantomime ancienne, hein. Pour lui, c'est un art qui est bavard, qui est boiteux et qui exprime en gestes ce que les mots pourraient très bien exprimer tout seuls. Voilà. Donc ça, si c'est pour dire avec des gestes ce qu'on peut dire avec un texte, De Croux, c'est pas quelque chose qui va l'intéresser, quoi. Et puis, autre problème de la pantomime, c'est qu'elle utilise beaucoup le visage et les mains. Et ça, c'est lié à une condition historique des théâtres où les acteurs étaient éclairés par la rampe à l'avant-scène. Et donc, il y avait toute une posture corporelle qui s'est mise en place pour qu'on puisse bien voir le visage et les mains. Donc, De Croux, il dit maintenant, voilà, depuis l'éclairage Svoboda et depuis les accrochages de projecteurs, c'est quelque chose qui est plus utile, hein. Et puis donc, ce qui répond au mime aussi, qui exprime un peu, je dirais moi, en rébus, le sens de mimer l'expression, il dit mais si vous voulez parler, ben parlez, hein, voilà, c'est pas la peine de mimer, voilà. Il y a trois types de pièces chez De Croux. Il y a des pièces qui sont basées sur un métier, par exemple le menuisier ou la lavandière. Ce que De Croux veut peindre dans ses pièces, c'est une généralité, c'est l'homme au travail qui est représenté. Et il y a un aller-retour permanent entre l'action et la pensée. Tout simplement parce que ces hommes et ces femmes au travail, paradoxalement, j'allais dire, par rapport à l'image qu'on s'en fait, ce sont des gens qui pensent, qui calculent, qui estiment, qui prévoient, qui choisissent les outils, les techniques appropriées. Donc il y a des arrêts dans ces pièces, il y a des arrêts qui sont des arrêts de pensée. Il y a aussi des études de mouvement que De Croux a écrit, qui sont inspirées par exemple de statues ou de statuettes. Alors, il y a une statue au Louvre, qui est une statuette égyptienne, qui s'appelle l'offrande aux dieux. Et c'est un petit personnage qui présente deux oranges aux dieux. Donc ça, De Croux, ça l'a beaucoup, beaucoup inspiré. Et là, il va s'intéresser beaucoup plus au mouvement sans forcément chercher à représenter. Et puis, il y a des pièces entre deux, comme l'usine que je vous propose de voir tout à l'heure. Ce qu'on devine dans l'usine, c'est les ouvriers, mais c'est aussi les boulons, c'est les rouages, c'est les courroies. Donc, c'est une forme de représentation qui va dépasser simplement la représentation humaine de représenter des personnages humains. Et puis, le dernier travail de De Croux, ça va être l'homme de songe. Pour lui, c'est l'homme moderne, c'est l'homme qui ne travaille plus, et c'est de voir comment la pensée s'exprime encore dans le corps, et comment finalement cette généalogie qui part du corps vers la pensée, elle est encore présente aujourd'hui. Mais on voit pas dans l'homme de songe, et on le voit très bien dans l'idée de, si on prend par exemple un orateur, repousser des idées, trier des idées, penser c'est égrener aussi, égrener les grains. Donc il y a tirer à soi le public, tirer à soi l'adhésion des gens. Donc voilà, donc il y a encore cette idée d'action. On remarquera que les titres des pièces de Croux sont souvent précédés de l'article défini. Le mime, selon De Croux, recherche la généralité. C'est plus le type idéal qui cherche à créer qu'un personnage singulier. On pourrait penser au personnage conceptuel chez Deleuze. En tout cas, c'est aussi une caractéristique du théâtre corporel en général, comme on le voit chez Jacques Lecoq. Quand Jacques Lecoq travaille sur le mime et sur le masque neutre, c'est complètement en dehors de l'anecdotique. Merci. Voilà, on va passer ensuite au deuxième mot, le mot corporel. Ce que De Croux reproche au théâtre tel qu'il existait à l'époque, alors là je vais paraphraser un peu son discours, parce que ça vaut le coup. Alors il reproche au théâtre tel qu'il était à l'époque d'être un bordel. Alors un bordel, c'est quoi? C'est une maison de rendez-vous. Et pour De Croux, c'est un rendez-vous artistique manqué. Alors, voilà. c'est quand même, il avait une verbe qui était assez extraordinaire. Alors, c'est l'idée justement que ça peut manquer d'unité, que le théâtre n'est pas un art. Et puis alors, il dit, mais un bordel, c'est aussi une maison de tolérance. Alors, une maison de tolérance, c'est un endroit, si on parle du théâtre, où il y a tous les différents corps de métier, écrivain, metteur en scène, acteur, décorateur, éclairagiste, et ils se tolèrent, puisqu'ils collaborent et qu'ils travaillent à l'unité d'une œuvre. Voilà. Pour De Croo, le centre, ça va être vraiment le corps du comédien, et ça va être vraiment son analyse principale. Alors, justement, parlons d'analyse. De Croo, pour justement mettre de l'ordre dans le corps du comédien, qui selon lui est aussi un bordel, il va travailler sur la méthode analyse et synthèse. Il s'agit de décomposer le corps en éléments simples, afin ensuite de le recomposer. Alors ça, on connaît la méthode cartésienne. Le corps va être articulé à la manière d'une marionnette. Alors on pense aussi à Gordon Craig qui voulait que l'acteur soit une sur-marionnette. Et je trouve que l'expression qui fonctionne le mieux, c'est celle de Thomas Libart, qui est mon professeur de mime, et qui parlait d'un acteur de bois. Voilà, je trouve ça intéressant. C'est peut-être plus que marionnette qui donne l'idée de quelque chose qui est sans vie à l'intérieur. Alors, comment il va s'occuper de ça? Il va articuler tête. Là, on voit un exemple d'articulation selon l'axe, ce que De Croo appelle l'axe des inclinaisons, mais il fait exprès de dire l'axe des inclinations. Il a toujours fait la faute de façon délibérée. Et vous avez donc une certaine décomposition tête et buste, tête, buste et sur la première ligne, tête, buste et bassin. Ensuite, à la deuxième ligne, troisième vignette, vous avez une posture qui s'appelle la tour Eiffel où tout est complètement incliné. Et puis dans la dernière ligne, vous avez des contradictions, vous avez des oppositions, vous avez une partie du corps qui part, le haut par exemple part à droite, et tandis que le bassin et les jambes restent à gauche, voilà, ou inversement. Donc ça se passe sur l'axe des inclinaisons, mais ça va se passer aussi sur l'axe des rotations. C'est la même chose. Et ça peut se passer, et ça se passe, c'est très fin, ça peut se passer pour la tête, par exemple. Vous avez une inclinaison de tête en haut à gauche, vous avez une translation, parce qu'il y a l'axe aussi des translations en haut à droite, et puis après, vous avez tout ce qui est rotation et rotation de tête. Alors, quand on dit rotation de tête, ça veut dire sans le cou. Donc, c'est quand même, ça va loin, quoi. Il invente également des marches qui ont des noms assez sympathiques, comme la marche sur le ventre de Vénus, la marche polonaise. Voilà. Son idée, c'est de vraiment créer une grammaire du geste, et non pas un code, et non pas un rébus. Et alors, venons-en maintenant à ce qui va nous intéresser pendant ce séminaire, c'est l'idée de mime corporel d'art dramatique. On va retrouver ici la problématique du double. Alors, il y a encore une question qui est oiseuse, mais qui est régulatrice. On va dire, c'est une idée régulatrice, c'est la différence entre le mime et la danse. Alors, c'est sûrement pas vrai la danse contemporaine qui a beaucoup, beaucoup évolué et qui s'est nourrie de beaucoup d'influences. Mais en tout cas, pour la danse à l'époque de Croo, la grande différence pour lui, c'est que le danseur, c'est pas. J'aurais dit, le danseur n'est pas dansé. Le danseur n'est pas dansant, il est dansé. Donc on a vraiment l'idée qu'il est complètement à la merci d'une volonté qui est celle du mouvement, quoi. C'est pas un être qui va commander. Et alors, il donne un exemple pour définir le mime. Et le mime, ça va être un ouvrier qui commande, et il commande à son corps les mouvements qu'on lui a commandés. Voilà. Là, je crois qu'on a quelque chose qui va nous intéresser. Il va nous intéresser au niveau du dédoublement et de cette espèce de schizophrénie. Voilà. L'ouvrier, pour lui, c'est un des modèles du mime, hein, parce qu'il y a De Croo a exercé beaucoup de métiers manuels. Et il oppose ça complètement aux danseurs. C'était une insulte chez lui de dire un élève danseur. C'était... Il y a autre chose, donc l'homme de travail s'arrête pour penser. Alors qu'est-ce qui, comment ça se voit dans le corps? C'est qu'il y a des saccades, des courtes immobilités, ou ce qu'on appelle le toc, que vous voyez chez Marceau aussi. Des tout petits moments où le mouvement est discontinu. On n'est pas sur du continu comme dans la danse, mais sur du discontinu. Et puis finalement, avec cette idée d'ouvrier qui commande son propre corps, se dégage petit à petit l'idée d'une conscience qui est douée de penser. Hein, on a l'impression que c'est la pensée qui commande le corps, qu'il y a deux personnes, quoi. Il va encore plus loin, il reprend une phrase de Chaplin. Chaplin disait le mime, c'est l'immobilité. Et De Croo rajoute, le mime, c'est l'immobilité transportée. Alors ça veut dire deux choses. Ça veut dire une première chose, ça veut dire que chaque fois qu'il y a dissociation, ça veut dire qu'il y a mouvement, il y a immobilité, parce que si on fait bouger une partie, il faut que la partie qui ne bouge pas reste, elle soit fixe. Hein. Et d'autre part, il y a aussi dans le corps une possibilité de se déplacer en ayant une certaine posture, une certaine forme, et donc de transporter des parties du corps qui ont été segmentées, qui sont restées figées. Hein. Et pour lui, c'est une lutte, comme on peut trouver, comme il parle également de la lutte de l'ouvrier ou de la lutte du travailleur. C'est une lutte vraiment avec le corps, et c'est une lutte aussi, il dit ça, contre sa propre nature. Et dans cette idée, le mime, c'est de l'immobilité transportée. On peut se demander si on est tant soit peu grammairien, quel est le complément d'agent de ce participe passé, transporté par qui? Voilà, on a encore une question. Et moi, j'ai l'impression que à partir de cette phrase, on a l'idée d'un personnage qui est nécessaire. Et c'est un peu mutando mutatis. C'est un petit peu l'idée du postulat ancien, quand Kant demande qu'il y ait des postulats dans la raison pratique. Là, on a vraiment besoin de dire, mais là, il y a un personnage, forcément, puisque c'est quelqu'un. Alors, personnage ou personne ou conscience, mais qui transporte? Et alors, il est conscient de ça, et puis il va nous dire texto, il y a deux personnes dans le mime. Il dit, dans l'artiste, il y a deux hommes. Il y a celui qui fait et celui qui regarde si c'est bien fait. C'est un peu le patron ou l'ouvrier. Il dit, mais ce n'est pas le même homme. Ils n'ont pas tous les deux les mêmes exigences. On peut même dire que leurs exigences sont en contradiction. Voilà. Et pour De Croo, c'était aussi important d'être sur scène en étant interprète et en même temps d'être la personne qui est assise dans le public. Voilà. Mais en même temps, en restant sur scène. On va aller encore plus loin et on va parler de la notion de contrepoids. Il faut simplement vous dire que les mouvements chez De Croo sont des mouvements grandioses. C'est vraiment une grande amplitude et quelque chose qui permet, pour que le public le perçoive, tout va être agrandi. Hein. Et De Croo explore vraiment les limites du déséquilibre. Hein. Ça, c'est le contraire de la pantomime où vraiment, comme je vous ai dit tout à l'heure, on a juste le visage et on a juste les mains. Alors, De Croo étudie d'abord les contrepoids de façon concrète et matérielle. Si vous regardez la ligne d'en bas, vous avez une personne qui est en train de pousser un obstacle, hein, et vous voyez les forces qui sont mises en valeur pour pousser l'obstacle, c'est-à-dire la jambe arrière et les bras. Hein. Et même chose sur la vignette du haut. Hein. Mais dans le mime, comme il n'y a pas d'obstacle, ça va être la jambe avant qui va porter tout le poids et qui va faire force. Ce qui fait que vous avez la jambe gauche qui pousse et la jambe droite qui pousse. Un peu comme quelqu'un qui se mettrait des bâtons dans les roues. Et donc, il y a une sorte d'opposition de force et contradiction. Et là, on parle de quelque chose qui est complètement concret. Hein. C'est une technique de mime. Quoi. Quand vous poussez un obstacle, vous remarquez que votre jambe avant est légère. On peut même l'enlever. C'est la jambe arrière qui va pousser. Hein. Et à partir de cette idée concrète, alors vous voyez le monsieur, il montre son doigt, il montre le sol, là, c'est-à-dire qu'il montre ce que De Croo appelle le, que De Croo appelle le fil à plomb, c'est-à-dire la force de gravité. C'est-à-dire que le centre de gravité dépasse les jambes, parce que cette idée de mise, de prise de risque qui est concrète et de prise de risque physique. Voilà, ça c'est autre chose. Et vous voyez ce que fait le personnage avec en haut à droite ou les deux vignettes d'en bas avec les bras. En fait, ça c'est de la décoration, parce que la réalité vraiment du mouvement, elle se fait sur les jambes. Et ce que vous voyez en haut, c'est une expression dramatique qui est quelque chose en plus. Et qui peut donner lieu à des contradictions. Si les bras vont vers l'arrière, par exemple dans la vignette du bas, celle qui est en bas à gauche, on a donc des choses concrètes mélangées à des choses qui sont peut-être plus superflues. Et donc ça, c'est cette idée, donc justement, quand on rajoute les bras, quand on rajoute une expression, De Croo va employer un terme qui est très beau, il appelle ça, c'est le contrepoids métaphysique. Donc pour lui, le comédien qui va incarner un personnage déchiré, avec plusieurs contradictions, avec plusieurs des forces contraires en lui, c'est ça le contrepoids métaphysique. Donc ça part de quelque chose de concret, ça part d'un exercice concret, physique, jusqu'à devenir un contrepoids métaphysique. Alors, je cite De Croo. Le mime dramatique, c'est le portrait de quoi ? C'est une chose connue que nous avons des désirs contradictoires. Et le mime, lui, ne peut pas jouer pour raconter ses contradictions intérieures. Pardon, le mime, lui, ne peut pas parler pour raconter ses contradictions intérieures. Il est obligé de les jouer. Or, l'homme porte en lui un drame bien avant d'être en conflit avec un autre homme. Donc, il y a des contradictions internes. On voudrait une chose et puis on voudrait en même temps une autre. On voudrait aller à droite, en allant à gauche. Ce drame, à lui seul, le corps le raconte. L'homme n'est pas en accord avec lui-même. Et au contraire, quand toutes les parties de lui-même sont en accord, alors il danse. Donc le projet de Croo, c'est rien moins que mettre le drame dans le corps de l'acteur, de l'intérioriser, de l'incorporer. Et le drame, pour Croo, c'est l'opposition, c'est la contradiction. Aussi bien dans les choses matérielles que dans le domaine de la pensée. Je vous parlais tout à l'heure de l'orateur et peut-être des arguments contraires et de comment il peut chasser des idées opposées, par exemple. De Croo se livre à un travail d'épuration et de fondation. Et cette idée de contradiction interne, cette idée de double, qui naît dès le moment de la dissociation entre le sculpteur et le sculpté, parce que quand il disait tout à l'heure, il y en a un qui fait et l'autre qui regarde si c'est bien fait, un petit peu comme s'il y a un sculpteur qui a une sorte de cause motrice de l'œuvre et une cause matérielle, c'est-à-dire un support, qui est le sculpté. Et le double, donc, pour De Croo, ça devient l'essence du théâtre. Et pour lui, logiquement, le mime est premier, le corps est premier, et ensuite vient le texte. Et le grand projet de Croo, c'est de créer, après, la ville n'y a pas laissé assez le temps, mais de créer un mime verbal. Donc, vous voulez aussi que la diction soit artistique, qu'elle aussi soit travaillé de façon décomposée et ensuite recomposée. Alors pour moi, il ne faut pas dire que le personnage n'existe plus dans le mime, hein, mais il existe selon d'autres modalités, une façon d'être peut-être multiple, mais il existe quand même. Et peut-être le personnage du mime, c'est peut-être la pensée elle-même. Le mime, ce n'est pas une simple esthétisation du mouvement ou du théâtre, c'est plutôt pour De Croo un modèle archétypal. Les arcs que De Croo va invoquer, justement, c'est l'architecture, c'est la musique des mouvements, immobilité, dissociation, poids et vitesse. Et ça, c'est une idée super importante, parce que chez De Croo, poids et vitesse, il va inventer un mot qui s'appelle le dynamorythme. Et pour lui, c'est la couleur, c'est la note de musique qui est en plus au théâtre. Alors, comme prolongement, il y a des personnes qui font. J'ai parlé tout à l'heure du théâtre du mouvement, Claire Hegen, Yves Marc, qui continue ce travail-là. Et on passe de plus en plus à un théâtre de multiplicité. On n'est pas simplement sur un sculpteur sculpté, mais on devient une équipe, comme dans une entreprise, avec un réseau de collaborateurs, etc. Donc le modèle va être un petit peu plus ça. Et puis il y a aussi des prolongements avec. Moi, je trouve, avec le clown. Parce que le travail du clown, c'est toujours créer un double de soi. Voilà, ce que je vous propose, c'est de regarder une petite pièce de De Croo qui s'appelle L'usine. Et je voudrais simplement vous lire un commentaire qui a été fait par Yves Marc. Il dit « Il est clair que Étienne De Croo ouvre des portes royales à une création contemporaine, corporelle et de mouvement, qui donne au corps sa véritable dimension polysémique. Une analyse sémiologique rapide, trop rapide peut-être, nous montre déjà que dans la pièce L'usine, le corps de l'acteur peut, en simultanéité ou en succession, représenter le geste de l'ouvrier, la machine, la matière travaillée, le temps qui passe, le rythme de production, les rapports humains jusqu'au militantisme ouvrier peut-être. L'avancée artistique dans cette voie nouvelle tient au fait que dans ce cas, la gestuelle n'est pas simplement l'expression globale de la psychologie du personnage. Le mouvement dans son organisation spatiale, temporelle et dynamique n'est pas le fruit du seul jeu dramatique et de l'intentionnalité de l'acteur. Il ne saurait se résoudre à l'expression de l'émotion ou de la pensée du personnage dans telle ou telle situation. Nous avons affaire là à une véritable énonciation gestuelle et de mouvement, langage corporel spécifique, repérable, riche de dimensions musicales, sculpturales, dramatiques. Il est vrai que ce type d'image corporelle peut être troublant et moins spectaculaire pour un spectateur. Perdant contact avec une référence mimétique initiale et unique, celui-ci doit moins deviner ce qu'il se passe sur scène que faire appel au jeu des associations de pensée et d'images, au jeu des analogies. L'enjeu est ailleurs, il est invité à voir un événement scénique de l'ordre du sensible autant que de celui du cognitif. Il assiste à des organisations corporelles particulières, privilégiant la richesse des rapports des parties du corps entre elles, à une organisation spéciale spécifique, à une gamme de vitesse et de rythme qui s'appuie fortement sur la respiration, un jeu de force et d'énergie insistant tout particulièrement sur la résistance musculaire, ce que De Croo appelle la comédie du muscle. Et donc je vous propose une petite comédie du muscle avec cette pièce, L'usine. Thank you.
En fait, on va pas poser de questions maintenant. On enchaîne les deux conférences. Il y aura ensuite des questions sur les deux intervenants. Donc, Olivier, si tu veux bien venir. Donc, maintenant, je vais donc laisser la parole à Olivier donc Saccomanno, qui est donc Prague à l'université d'Aix-Marseille Université, enfin Aix-Marseillais, comme on disait avant, à l'université de Provence. Comme on disait avant la réunion des trois universités, qui est aussi donc metteur en scène et qui donc a aussi donc une activité de praticien du théâtre. Et donc je vais lui donner la parole pour son intervention.
Je vais commencer par remercier. Ça, c'est pas possible. Comme ça, ça va ? Non, monsieur. Donc, oui, pardon, je voulais donc remercier à mon tour Jean-Yves d'avoir organisé toute cette affaire, et puis la maison de Montreuil, et puis à ceux qui sont restés. Voilà, puisque j'ai l'honneur de clôturer toute cette chose. Je vais m'efforcer de faire le plus rapidement possible. Enfin, il y a quand même des choses à dire. Donc, mon intervention, disons qu'elle part d'un constat qui serait un constat à la fois historique et puis politique. Qui est que dans un large courant de l'idéologie théâtrale contemporaine, la notion de jeu n'est plus véritablement en vogue. Et donc, je voudrais interroger un peu de quoi cette disgrâce-là est le signe. Dans un premier pérage, je voudrais dire simplement que la notion de jeu, elle semble liée précisément à un régime théâtral particulier, à l'intérieur duquel elle servait à penser un certain rapport de l'acteur au texte, en tant que ce rapport justement serait cadré par la notion de personnage. Et c'est ce rapport-là que ce courant déclare périmé. Or, comme c'était en général, si vous voulez, sur le fond de ce rapport-là, qu'était pensée classiquement la duplicité de l'acteur, la figure de l'acteur elle-même s'en trouve affectée. C'est-à-dire que destituée de cette duplicité, son acte tend à être pensé sur le registre de la performance. Et si on poursuit ce jeu de domino-là, si l'acteur est pensé donc comme pure présence performative, c'est l'art du théâtre lui-même qui finalement se trouble. Et voilà. C'est comme si on se disait que, comme il a perdu son opérateur historique, on va dire, dans la personne de l'acteur duplice, il devient l'art du théâtre, spectacle vivant, précisément au même titre que la danse, le cirque, le concert, voire l'exposition, avec lesquelles finalement les frontières se brouillent. Et c'est quand même cette espèce de collusion historique que désigne le terme ministériel, enfin qui est quand même, je dirais, repris la bouche en cœur par la plupart des structures et aussi des artistes, de transdisciplinarité. Voilà. Et transdisciplinarité, par où finalement on semble être passé du spectacle total dont rêvait Wagner à une sorte de tout spectacle convivial qui me semble, moi, tout à fait homogène à nos sociétés libérales, quoi. Cette tendance idéologique, évidemment, ce n'est pas qu'une tendance idéologique, où elle a des effets précisément, c'est-à-dire qu'elle se mesure, je crois, concrètement en termes de production, de diffusion, de formation des acteurs. Et on peut dire qu'on est finalement assez peu encouragé aujourd'hui à faire ce que un dignitaire du régime a appelé une fois, sûrement désorienté, du théâtre-théâtre. Hein, faute de désigner vraiment ce qu'on essayait de faire, et voilà, ça c'est du théâtre. Donc, en hommage à son désarroi, j'essaierai de dire finalement ce que peut être encore aujourd'hui le théâtre-théâtre. Voilà. C'est-à-dire finalement une pratique qui garde en son centre la question de la duplicité de l'acteur, enfin qui garde en son centre une duplicité de l'acteur, mais refondée, repensée, remodifiée. Donc plus sur les modèles acteurs-personnages, enfin les modèles que je vais essayer du coup de rappeler rapidement. Donc qu'est-ce que ce théâtre-théâtre exige de nous, et puis qu'est-ce que c'est que les conséquences de ces mutations historiques du théâtre et de l'acteur sur finalement les constructions subjectives que le théâtre produit, quoi, aussi bien chez les acteurs que, que pour le public. Bon. Donc pour y voir un peu plus clair dans ce tracé, et puis pour donc dessiner un peu le schéma de ces mutations, je distinguerai trois types dans la pensée de la duplicité de l'acteur. Le premier type, je l'ai appelé la duplicité mimétique, ce qui nous amènera à refaire un tour du côté de notre ami Platon. Le second, la duplicité imaginaire. Et le dernier, la duplicité scénique. Donc ces types-là, que je propose là simplement comme des balises théoriques pour nous orienter dans la question, on peut évidemment les faire correspondre à des périodes historiques, à des mutations à certaines époques, soit des techniques théâtrales ou des modes de construction subjective hein, qui correspondent à certaines époques. Mais on peut aussi les entendre d'une autre oreille, c'est-à-dire comme des différentes manières, finalement toujours actuelles, de penser et de pratiquer l'art du théâtre. Alors, rentrons tout de suite dans le cœur de l'affaire avec l'essai de détermination du premier type que serait la duplicité mimétique. Alors, cette duplicité, elle se pense, elle s'est théorisée comme ça, pensée comme ça, à partir d'une dualité cadrée par deux termes, deux instances qui sont soi et un autre. Alors, évidemment, cette dualité-là, elle ouvre à la question de la duplicité en tant que telle, que si intervient dans la relation entre soi et un autre, des opérations qui ne laissent pas les termes en extériorité l'un à l'autre, mais font passer de la dualité initiale à une forme d'unité duplice. Alors, un des traits de cette duplicité, c'est qu'elle part d'un sujet, je dirais un jeu, hein, J-E, mais si on peut dire, le réfère ou l'inféode à un autre sujet, un autre jeu. Alors j'emploie ici le terme de sujet à dessein pour indiquer que l'analyse de la duplicité mimétique, elle a d'abord les caractéristiques d'une analyse pardon, grammaticale, stylistique, c'est-à-dire précisément vidée de toute référence à une intériorité ou à une identité. Et ensuite, pour faire entendre que ce sujet va se définir dans une relation d'assujettissement, hein, au sens où il va devenir finalement le sujet de l'autre sujet. Il va devenir son second et donc sera mené par le premier. On va voir selon quelles opérations. Donc cette pensée-là de la duplicité de l'acteur, à mon sens, on la trouve développée au plus haut point, donc chez un auteur qui est évidemment, comme on l'a vu tout à l'heure, un auteur paradoxal quant au théâtre, c'est-à-dire Platon. Je dis paradoxal parce qu'évidemment, je crois qu'il y a chez lui une extrême précision et une infinie richesse de la pensée sur le théâtre et qui se déploie, comme on l'a vu tout à l'heure, dans le cadre d'un réquisitoire à l'encontre de la pratique du théâtre tel que les poètes et les acteurs en font profession. Alors il donne, à mon sens, deux analyses essentielles de la duplicité mimétique. La première, elle concerne ce qu'on pourrait appeler le double jeu, le rapport entre les deux jeux du poète mimétique. Hein, comme le rappelait tout à l'heure Denis Guénoun, c'est une analyse qui concerne le poème, mais je voudrais aussi vous faire entendre en quoi, à mon avis, elle est déterminée par des conditions pratiques et que finalement, elle concerne aussi l'acteur. Et le fait qu'il ne produise pas une théorie de l'acteur, ce n'est pas non plus un hasard, donc on va essayer d'éclairer ça rapidement. Et la seconde, elle concerne l'assujettissement de l'acteur au poète. Alors, on va détailler rapidement ces deux analyses. Donc la première analyse, on pourrait dire que son chiffre ou son énoncé, c'est soit comme si un autre. Voilà. C'est le rapport du soi comme si un autre. La relation entre les deux, c'est cette relation de comme si. Et c'est ce qui va se jouer dans la question de l'imitation telle qu'elle est mise en jeu dans le poème dramatique. Donc, pour rappeler rapidement, je parle du même point finalement qu'Ismaël tout à l'heure. Au livre 3, quand il examine les divers modes du dire poétique et leur convenance donc, à l'horizon politique de la cité juste, Socrate il oppose le mode simple, hein, c'est le mode simple qu'il appelle aplos, hein, le mode simple du récit mimétique qu'on a, il oppose le mode simple aplos du récit, hein, le récit c'est un mode simple, au récit mimétique, qu'on appellera ici, pour faire court, le mode théâtral. Et on pressent déjà que par opposition, si vous voulez, par contraste avec la simplicité du récit, le mode théâtral devra donc de quelque manière être affecté, au contraire, de duplicité. Alors comment Platon y pense la duplicité propre au mode théâtral ? Donc en ces termes, le poète n'y parle pas lui-même, mais parle comme si c'était un autre qui parlait. Alors il n'est pas question dans le texte original de parler en son nom ou sous un autre nom, comme certaines traductions le font parfois apparaître, mais l'écart il passe bien entre soi-même et puis un autre, simplement. Ce faisant, ce que fait le poète, c'est qu'il fait advenir du semblable, du même, hein, l'opération elle se dit comme ça, c'est homoïein, il fait apparaître du semblable, du même entre soi et un autre. C'est-à-dire que le poète, ce qu'on disait précédemment, se rend semblable à l'autre. Et c'est ça qu'on appelle donc imiter. La définition technique de l'imitation, c'est ça, hein, mimesis. Mais il y a tout de même plusieurs manières de se rendre semblable à un autre. Il y a plusieurs manières d'utiliser la mimesis. Je voudrais simplement détailler un petit peu ce concept-là ou cette relation pour dire qu'il y a, quelque chose qui est contenu dans la mimesis poétique et qui en même temps est pensable séparément d'elle. C'est-à-dire, on pourrait dire qu'il y a un usage courant ou général de la mimesis qui nous sert bien à nous rendre semblables à un autre en faisant comme lui. C'est-à-dire, c'est ce que j'appellerais, pour faire vite, la mimesis du faire comme. Hein, en forgeant, hein, selon l'expression, c'est-à-dire en faisant comme le forgeron, je fais advenir du semblable entre moi et lui à tel point que je deviens forgeron. Okay. Et l'usage de la mimesis dans le poème, où il ne s'agit pas du tout de faire comme, mais de parler comme si on était un autre. Alors, et évidemment, là, c'est là que vient se nicher la question compliquée de l'identité. Comment on peut situer la différence entre ces deux usages ? Si ce n'est finalement dans le fait, et ça, je pense que c'est important quand on essaye de penser la relation théâtrale, que dans le second cas, c'est-à-dire celui du poète mimétique, l'opération suppose un témoin. C'est-à-dire, ça suppose un troisième larron. Hein, c'est-à-dire le poète mimétique ne parle comme si c'était un autre qui parlait qu'en relation à un troisième, c'est d'ailleurs nous dans le texte de Platon. Pourquoi il nous parle comme s'il était un autre, hein, et donc c'est finalement à nous qui va être caché. Donc il faut penser la totalité, je dirais, de cette situation pour voir que il y a un troisième en direction duquel l'opération est menée, et parce que c'est seulement à cette condition qui peut être déterminé, Platon il le dit plus loin, comme caché. C'est-à-dire on est nécessairement caché par un autre, ou par n'importe quoi d'autre d'ailleurs, à un troisième. Et qu'il faut penser ces trois éléments-là. Donc, pour le dire en d'autres termes, je dirais que la mimésis dans le poème a pour fonction et effet de cacher le jeu du poète, appelons-le le jeu Homère, par un autre jeu, le jeu Chrysès, dans le passage que vous lisez Samuel tout à l'heure, au lecteur, auditeur. Ismaël. J'ai pas dit Ismaël ? J'ai dit quoi ? Samuel. Samuel. Oui, il y avait Samuel hier. Donc, ce mode-là, il est affecté de duplicité dans la mesure où des deux jeux posés au départ, l'un des deux seulement est présenté au lecteur, auditeur. Ce qui ne signifie pas évidemment que le premier soit absent. Au contraire, il est présent, mais en tant que caché. Alors, rapidement, deux remarques sur cette analyse. Premièrement, dire que du poète mimétique à l'acteur, il n'y a pour les Grecs même pas un pas. Hein. C'est-à-dire que, on pourrait dire presque ce que tu disais tout à l'heure, c'est-à-dire que le mode mimétique de composition correspond d'une certaine façon à une mise sur le mode acteur du poète. On pourrait même dire, moi je serais assez partisan de dire cette chose-là, que le mode de composition poétique, il est directement une espèce de calque de la pratique du théâtre. Donc dans tout ce que je viens de dire précédemment, je crois que vous pouvez sans dommage remplacer poète par acteur. On retrouvera en tout cas la même structure ternaire, c'est-à-dire l'acteur, le jeu opérateur, le texte ou le jeu énoncé par l'acteur et celui d'un autre, et le public comme témoin de l'opération. À ça, il faut ajouter en plus que sur scène, c'est-à-dire dans l'espace de mise à vue du poème, comme si finalement la métaphore de par laquelle Platon désignait l'opération textuelle était mise en acte, l'acteur cache son visage au public par un masque qui figure le visage de l'autre. Sur scène, donc, le public il voit finalement cette duplicité en acte, c'est-à-dire le masque en tant que porté par l'acteur. Alors évidemment, le public ne voit pas uniquement le masque, hein, c'est-à-dire qu'il échappe finalement à la duperie de l'unité par lequel un jeu serait intégralement caché par un autre jeu. Mais ce qui est important de mesurer, je crois, c'est que l'expérience pratique du masque est là pour nous indiquer que c'est bien d'une certaine façon le masque qui mène la danse de la visibilité, enfin en tout cas qui guide le protocole de mise à vue, hein, puisqu'on sait que dans la pratique, c'est une règle de base de la pratique du masque, que le masque soit toujours face au public. Sinon, le masque en tant que tel meurt ou ne joue plus. C'est pareil. Donc voilà un paradoxe qui, à mon avis, rend compte d'une certaine façon de la duplicité mimétique, c'est-à-dire que le cache est ce qui doit toujours être visible. Par où on voit que l'acteur, qui a la face cachée par le masque, est aussi, peut être pensé comme étant la face cachée du masque. Voilà. Deuxième remarque, le « comme si », hein, contrairement à ce qu'une oreille moderne pourrait y entendre, ne suffit pas à faire passer l'opération mimétique pour un innocent jeu de cache-cache. C'est-à-dire que la mimésis, ce n'est pas l'ouverture vers un conditionnel, au sens où on dirait que je serais Crisès, comme disent les enfants, mais vraiment c'est vraiment une opération de conditionnement, hein, pour Platon. C'est-à-dire que ça produit une modification subjectif qui est tout à fait effective. On pourrait dire finalement, justement, Platon a l'air de nous dire ce n'est pas un jeu, pour faire entendre que cette pratique n'est pas sans effet réel sur la formation de l'âme qui s'y prête. C'est ce qu'il dit, par exemple, en disant « N'as-tu pas remarqué que les imitations, si dans la jeunesse on ne cesse de les développer, se transforment en habitude et deviennent une autre nature, tant pour le corps et la voix que pour l'esprit ?» Donc la mimésis poétique, elle utilise les ressorts de ce qu'on a appelé la mimésis générale, je veux dire celle du forgeron. Hein, et son usage public, en un sens, n'en neutralise pas les effets. C'est-à-dire qu'il y a quand même cette pensée que vous êtes voué à devenir ce que vous imitez. Hein, c'est-à-dire que la mimésis reste avant tout un rapport de conformation entre soi et un autre, hein, dont, ça c'est important, dont l'éventuel statut fictionnel de cet autre ne change absolument rien au problème, en tout cas dans la manière dont la question se pose, hein, pour Platon. Il y a cette idée donc que si vous répétez l'opération consistant à vous dissimuler sous un masque, votre visage va peu à peu prendre la forme de ce masque. C'est pourquoi d'ailleurs, on l'oublie des fois, la mimésis est absolument recommandée aux citoyens, pour peu que l'autre auquel il se conforme soit un modèle de vertu, hein, et de la vertu particulière qu'un citoyen est encouragé à développer, évidemment conformément à sa classe et selon les règles d'une stricte division du travail, comme ça a été dit tout à l'heure. Voilà. Et donc, en deçà de la duplicité propre à l'opération mimétique du poète ou de l'acteur, il y a donc à penser ce qu'on pourrait appeler une plicité, si vous m'accordez ce terme, une plicité immédiate, hein, qui fait, si on peut dire, le fond de la mimésis, hein, par lequel on est toujours amené à prendre le pli de l'autre. Et s'il faut se garder du poète mimétique, c'est que c'est celui qui prend plusieurs plis, qui est engagé dans des opérations de duplication, de multiplication, il fait proliférer les plis, il se plie dans tous les sens, à tort et à travers, Et c'est en ça précisément qu'il est nocif. Cette multiplication-là, elle s'oppose à ce qu'on pourrait par contraste appeler l'application du simple citoyen, hein, tenu de ne faire qu'une seule chose. Donc la mimétique, c'est en fin de compte une affaire trop grave pour être laissée au poète. Hein, mais en même temps, la mimésis en tant que telle ne saurait être exclue. Et effectivement, tu le disais tout à l'heure, Platon, il est bien placé pour le savoir, étant donné même la forme prise par ses textes. Donc la deuxième analyse que Platon produit, c'est, on pourrait l'appeler, la première s'appelait soit comme si un autre, soit mu par un autre. Parce qu'il y a aussi il y a une théorie du mouvement qui est pensée par Platon dans ce phénomène bien connu qu'il analyse dans Ion, qui est la possession. Je vous rappelle simplement juste le cadre du dialogue Ion. Dans Ion, Platon mythologise comme ça une chaîne de possédés qui sont comme des anneaux accrochés à un aimant, hein, la pierre de Magnésie, et qui situe la divinité, et puis ils se transmettent l'un à l'autre la force d'attirer à eux l'anneau suivant. Hein, donc ils sont tous liés comme ça. Alors, sans rentrer dans l'analyse de toute la totalité de la chaîne, on va simplement s'intéresser à un tronçon ici, celui qui relie celui qui relie le poète au rhapsode, puisque le Ion est un dialogue qui met en scène Socrate, et Ion qui est un rhapsode. Mais sur ce point-là, l'acteur, il figure dans la liste de ceux qui doivent être pensés au même registre que le rhapsode. Hein. Le rhapsode, il va être déterminé comme possédé dans la mesure où la force qui circule en lui ne lui appartient pas en propre. Elle lui vient d'un autre. Il n'en est que le conducteur. Alors, il est possédé parce que en lui, quelque chose passe qui finalement va le mettre hors de lui. Et fait qu'il ne s'appartient plus. C'est sur tout ce registre-là que... Et évidemment, là, c'est là que vient se nicher la question compliquée de l'identité. Comment on peut situer la différence entre ces deux usages? Si ce n'est finalement dans le fait, et ça, je pense que c'est important quand on essaye de penser la relation théâtrale, que dans le second cas, c'est-à-dire celui du poète mimétique, l'opération suppose un témoin. C'est-à-dire, ça suppose un troisième larron. Hein, c'est-à-dire, le poète mimétique ne parle comme si c'était un autre qui parlait qu'en relation à un troisième. C'est-à-dire, nous, dans le texte de Platon. Pourquoi il nous parle comme s'il était un autre, hein. Et donc, c'est finalement à nous qu'il va être caché. Donc, il faut penser la totalité, je dirais, de cette situation, pour voir qu'il y a un troisième en direction duquel l'opération est menée. Et parce que c'est seulement à cette condition qu'il peut être déterminé, Platon il le dit plus loin, comme caché. C'est-à-dire on est nécessairement caché par un autre, ou par n'importe quoi d'autre d'ailleurs, à un troisième. Et qu'il faut penser ces trois éléments-là. Donc, pour le dire en d'autres termes, je dirais que la mimésis dans le poème a pour fonction et effet de cacher le jeu du poète, appelons-le le jeu Homère, par un autre jeu, le jeu Chrysès, dans le passage que vous lisez Samuel tout à l'heure, au lecteur, auditeur. Ismaël. J'ai pas dit Ismaël ? J'ai dit quoi ? Samuel. Oui, il y avait Samuel hier. Donc, ce mode-là, il est affecté de duplicité dans la mesure où des deux jeux posés au départ, l'un des deux seulement est présenté au lecteur, auditeur. Ce qui ne signifie pas évidemment que le premier soit absent. Au contraire, il est présent, mais en tant que caché. Alors, rapidement, deux remarques sur cette analyse. Premièrement, dire que du poète mimétique à l'acteur, il n'y a pour les Grecs même pas un pas. Hein, c'est-à-dire que on pourrait dire presque ce que tu disais tout à l'heure, c'est-à-dire que le mode mimétique de composition correspond d'une certaine façon à une mise sur le mode acteur du poète. On pourrait même dire, moi je serais assez partisan de dire cette chose-là, que le mode de composition poétique, il est directement une espèce de calque de la pratique du théâtre. Donc dans tout ce que je viens de dire précédemment, je crois que vous pouvez sans dommage remplacer poète par acteur. On retrouvera en tout cas la même structure ternaire, c'est-à-dire l'acteur, le jeu opérateur, le texte ou le jeu énoncé par l'acteur est celui d'un autre, et le public comme témoin de l'opération. À ça, il faut ajouter en plus que sur scène, c'est-à-dire dans l'espace de mise à vue du poème, comme si finalement la métaphore par laquelle Platon désignait l'opération textuelle était mise en acte, l'acteur cache son visage au public par un masque qui figure le visage de l'autre. Sur scène, donc, le public il voit finalement cette duplicité en acte, c'est-à-dire le masque en tant que porté par l'acteur. Alors évidemment, le public ne voit pas uniquement le masque, hein, c'est-à-dire qu'il échappe finalement à la duperie de l'unité par lequel un jeu serait intégralement caché par un autre jeu. Mais ce qui est important de mesurer, je crois, c'est que l'expérience pratique du masque est là pour nous indiquer que c'est bien, d'une certaine façon, le masque qui mène la danse de la visibilité, enfin, en tout cas qui guide le protocole de mise à vue, hein, puisqu'on sait que dans la pratique, c'est une règle de base de la pratique du masque, que le masque soit toujours face au public. Hein, sinon, le masque en tant que tel meurt, hein, ou ne joue plus. Donc voilà un paradoxe qui, à mon avis, rend compte d'une certaine façon de la duplicité mimétique, c'est-à-dire que le cache est ce qui doit toujours être visible. Hein, par où on voit que l'acteur, qui a la face cachée par le masque, est aussi, elle peut être pensée comme étant la face cachée du masque. Voilà. Deuxième remarque, le comme si, hein, contrairement à ce qu'une oreille moderne pourrait y entendre, ne suffit pas à faire passer l'opération mimétique pour un innocent jeu de cache-cache. C'est-à-dire que la mimésis, ce n'est pas l'ouverture vers un conditionnel, au sens où on dirait que je serais crises, comme disent les enfants, mais vraiment c'est vraiment une opération de conditionnement, hein, pour Platon. C'est-à-dire que ça produit une modification subjective qui est tout à fait effective. On pourrait dire finalement, justement, Platon a l'air de nous dire ce n'est pas un jeu, pour faire entendre que cette pratique n'est pas sans effet réel sur la formation de l'âme qui s'y prête. C'est ce qu'il dit, par exemple, en disant: n'as-tu pas remarqué que les imitations, si dans la jeunesse on ne cesse de les développer, se transforment en habitudes et deviennent une autre nature, tant pour le corps et la voix que pour l'esprit. Donc la mimésis poétique, elle utilise les ressorts de ce qu'on a appelé la mimésis générale, je veux dire celle du forgeron. Hein. Et son usage public, en un sens, n'en neutralise pas les effets. C'est-à-dire qu'il y a quand même cette pensée que vous êtes voué à devenir ce que vous imitez. Hein. C'est-à-dire que la mimésis reste avant tout un rapport de conformation entre soi et un autre, hein, dont, ça c'est important, dont l'éventuel statut fictionnel de cet autre ne change absolument rien au problème, en tout cas dans la manière dont la question se pose, hein, pour Platon. Il y a cette idée donc que si vous répétez l'opération consistant à vous dissimuler sous un masque, votre visage va peu à peu prendre la forme de ce masque. C'est pourquoi d'ailleurs, on l'oublie des fois, la mimésis est absolument recommandée aux citoyens, pour peu que l'autre auquel il se conforme soit un modèle de vertu. Hein, et de la vertu particulière qu'un citoyen est encouragé à développer, évidemment conformément à sa classe et selon les règles d'une stricte division du travail, comme ça a été dit tout à l'heure. Voilà. Et donc, en deçà de la duplicité propre à l'opération mimétique du poète ou de l'acteur, il y a donc à penser ce qu'on pourrait appeler une plicité, si vous m'accordez ce terme, une plicité immédiate, hein, qui fait, si on peut dire, le fond de la mimésis, hein, par lequel on est toujours amené à prendre le pli de l'autre. Et s'il faut se garder du poète mimétique, c'est que c'est celui qui prend plusieurs plis, qui est engagé dans des opérations de duplication, de multiplication, il fait proliférer les plis, il se plie dans tous les sens, à tort et à travers, et c'est en ça, précisément, qu'il est nocif. Cette multiplication-là, elle s'oppose à ce qu'on pourrait, par contraste, appeler l'application du simple citoyen, hein, tenu de ne faire qu'une seule chose. Donc la mimétique, c'est en fin de compte une affaire trop grave pour être laissée au poète. Hein, mais en même temps, la mimésis en tant que telle ne saurait être exclue. Et effectivement, tu le disais tout à l'heure, Platon, il est bien placé pour le savoir, étant donné même la forme prise par ses textes. Donc la deuxième analyse que Platon produit, c'est on pourrait l'appeler, la première s'appelait soit comme si un autre, soit mu par un autre. Parce qu'il y a aussi y a une théorie du mouvement qui est pensée par Platon dans ce phénomène bien connu qu'il analyse dans Ion, qui est la possession. Je vous rappelle simplement juste le cadre du dialogue Ion. Dans Ion, Platon mythologise comme ça une chaîne de possédés qui sont comme des anneaux accrochés à un aimant, hein, la pierre de Magnésie, et qui situe la divinité, et puis ils se transmettent l'un à l'autre la force d'attirer à eux l'anneau suivant. Hein, donc ils sont tous liés comme ça. Alors, sans rentrer dans l'analyse de toute la totalité de la chaîne, on va simplement s'intéresser à un tronçon ici, celui qui relie celui qui relie le poète au rhapsode, puisque le Ion est un dialogue qui met en scène Socrate et Ion qui est un rhapsode. Mais sur ce point-là, l'acteur, il figure dans la liste de ceux qui doivent être pensés au même registre que le rhapsode. Hein. Le rhapsode, il va être déterminé comme possédé dans la mesure où la force qui circule en lui ne lui appartient pas en propre. Elle lui vient d'un autre. Il n'en est que le conducteur. Alors, il est possédé parce que en lui, quelque chose passe qui finalement va le mettre hors de lui. Et fait qu'il ne s'appartient plus. C'est sur tout ce registre-là que Platon construit son raisonnement. Alors, quand même, il y a une qualification dans le texte un peu plus précise sur ce que c'est que la possession, je dirais presque une qualification un peu plus technique, quand il nous dit que être possédé, c'est un tout petit passage, être possédé, c'est entrer dans un rythme. Être possédé, c'est entrer dans un rythme. Alors, c'est évidemment un point essentiel dans le rythme, hein, dans la pensée grecque, parce que dans certaines analyses, dans certains registres, l'âme elle-même, ou plutôt les dispositions de l'âme, sont pensées en termes rythmiques. C'est pourquoi, d'ailleurs, il y a différentes constructions rythmiques, hein, correspondent à divers tempéraments. Hein, et dans tempérament, là, précisément, il faut entendre le tempo. C'est-à-dire que la colère, la tristesse, la peur, le courage, etc., sont pas des unités émotionnelles, mais des rythmes de l'âme. Ce qui fait que, et ça rejoint peut-être cette espèce de chose qu'on appelait hier des interfaces, je ne sais pas, je ne m'aventurerai pas sur ce terrain, mais un rythme extérieur influence directement l'âme qui s'y laisse prendre. Et Aristote, il y a un petit texte d'Aristote qui définit explicitement la musique comme homoyoma des dispositions de l'âme. Et cet homoyoma-là fait écho à l'homoyein qui caractérisait un peu plus haut l'opération mimétique. Hein, c'est-à-dire qu'il y a un rapport de même-té entre le rythme extérieur et puis le rythme de l'âme. Et voilà, c'est la même chose pour le poète. Alors, je voudrais demander dans ces conditions-là à quoi poser une question tranche dans le cours de l'exposé, mais qui est à quoi reconnaît-on dans ces conditions-là un mauvais acteur, hein, ou un mauvais rhapsode. Un mauvais acteur, c'est un acteur qui, n'étant pas ému, n'est pas émouvant, puisqu'il il occupe toujours une place intermédiaire dans cette chaîne de possédés. C'est un acteur qui, n'entrant pas par son énonciation dans le rythme du texte, ne transmet pas ce rythme à son auditoire. Autrement dit, c'est un acteur qui ne plie pas son rythme d'énonciation au rythme d'énonciation du poète. Et ça, je crois que c'est une, pour vous faire des ponts historiques, c'est une pensée très proche de ce que Jouvet théorisera, ou de ce qu'on peut encore lire aujourd'hui chez des metteurs en scène exigeant à des degrés divers la soumission de l'acteur au poème. Hein. Par exemple, Régie, qui c'est précisément pas un hasard par rapport à ce que je viens de vous dire, situe l'acteur comme passeur. Alors, pour conclure sur cette duplicité mimétique, je voudrais simplement vous faire remarquer que le fait que la duplicité mimétique de l'acteur n'ait pas été pensée comme telle fait signe, à mon avis, qu'elle est du même ordre que la duplicité du poète, au sens où ce qui prime dans cette configuration, c'est l'acte de parole. C'est l'acte de parole de l'acteur et du poète qui est, je crois, vraiment le centre hein, le cœur de cette pensée-là. On verra que dans la le type de duplicité que je vais vous proposer maintenant, c'est pas vraiment le cas. Donc j'en viens à la deuxième, la duplicité imaginaire, qui, elle, a pour condition, si vous voulez, une configuration particulière du rapport entre l'acteur et le texte, qui justement s'appuie moins sur le fait de dire, sur l'énonciation, la profération, la diction, la métrique, que sur un jeu de construction, de projection, de superposition d'images. Alors je crois que parmi les raisons historiques qui ont vu se développer ce type-là de duplicité, il faut signaler d'abord l'influence ou la reconnaissance officielle des techniques d'improvisation des Italiens qui sont basées non plus sur un texte, mais sur un canevas, hein, ou sur le texte comme canevas. C'est à ce point-là, si vous voulez, que va se dégager presque précisément aux frontières du texte ou aux interstices du texte un espace de jeu qui sera le lieu de naissance, de vie, d'élaboration de ce qu'on appellera le personnage. Mais ça suppose ce décrochage avec le centrage sur le texte, quoi. Pour preuve de ce décrochage-là entre la parole et le jeu, cette remarque de Diderot, qui sera là, dans cette partie-là notre guide dans un premier temps, Diderot qui dit « Nous parlons trop dans nos drames et conséquemment, nos acteurs n'y jouent pas assez. » Donc, voilà. Qu'est-ce que c'est, à partir de ce moment-là, que le jeu dont parle Diderot? Comment lui, Diderot, parce que finalement, Guénoun l'a rappelé tout à l'heure, c'est le grand penseur de cette duplicité-là qu'on va appeler acteur-personnage. J'en profite pour rappeler que dans la configuration précédente, le concept même de personnage est complètement absent de la pensée grecque. Ça n'existe pas, quoi. Alors, comment Diderot il pense cette duplicité qui le fera dire de l'actrice qu'il prend pour modèle, c'est-à-dire la Cléron, elle est double. Hein, en ce moment, elle est double. La petite Cléron et la grande Agrippine. Voilà, cette phrase de Diderot pour insérer la question. Alors, comment ça se passe? Comment il pense l'affaire? Pour lui, l'acteur est déjà l'écrivain, et on voit là justement, je crois, le lien entre la dimension poétique, c'est-à-dire la sphère du poème, et la dimension pratique, c'est-à-dire la sphère du jeu scénique. L'acteur et l'écrivain conçoivent d'abord ce qu'il appelle des modèles. Et ces modèles, ils ont une caractéristique, c'est qu'ils sont absolument flottants. Ils sont flottants au sens où ils n'existent pas directement dans la nature. Ils sont créés par l'imagination. Et ensuite et surtout parce qu'ils ne sont pas intégralement coextensifs à l'écriture. C'est-à-dire que l'image imaginée est comme en excès sur la parole. Donc on écrit et on joue à partir d'images. Concernant l'écriture, Diderot il est assez clair sur ce point. Il dit dans l'écrivain le plus clair, le plus précis, les mots ne sont et ne peuvent être que des signes approchés d'une pensée, d'un sentiment, d'une idée. Donc, à partir de là, qu'est-ce qui se passe quand la Cléron joue? Alors, la difficulté, je crois, c'est de penser cette opération pas comme une relation duelle, simplement dans le rapport entre l'actrice et le personnage, mais comme une relation à trois termes. C'est-à-dire, on voit. Donc là, je me mets dans la position théorique du spectateur ou de celle de Diderot quand il parle de la Cléron. Il dit on voit la petite Cléron et la grande Agrippine, mais il faut penser également comment le sujet, l'acteur, opère ce dédoublement. C'est-à-dire, il y a d'un côté, je crois, ce que le public voit, deux images qui tendent à se confondre, et il y a l'opératrice de cette confusion-là. Alors la Cléron, ce qu'elle a fait, Diderot nous décrit son travail et théorise son travail, la Cléron, elle a conçu, imaginé un modèle, Diderot l'appelle d'ailleurs souvent un fantôme, une Agrippine idéale, voilà, qui n'existe pas. Alors ça, évidemment, elle peut le faire qu'à partir du texte et de son caractère approximatif. C'est-à-dire du texte, elle déduit un modèle. Puis Diderot nous dit, ce qui est une formule étrange, on verra, c'est difficile à comprendre, il nous dit qu'elle copie, imite le mouvement, les actions, les gestes de ce modèle. Alors, comment ça se passe, cette chose-là? On voit le processus, c'est-à-dire que Lacléron va établir une partition scénique, hein, partition vocale, gestuelle, qui va consister à se conformer par des signes extérieurs à cette image, qui, elle, c'est ça la subtilité de l'affaire, qui, elle, n'est pas donnée par ces signes extérieurs que sont les mots. Bon. Il y a donc, en quelque sorte, deux images, c'est-à-dire celle imaginée par Lacléron, qui va contrôler ou guider l'élaboration de la partition. Dans la pratique, elle a presque valeur d'idéal régulateur plus que de modèle, d'après le processus que décrit Diderot. Et cette partition elle-même qu'elle a élaborée va constituer la seconde image, hein, celle que verra le public. Alors du coup, ce que le public voit, on pourrait dire presque comme à la surface de Lacléron, ce sont les signes extérieurs de sa conformité au modèle invisible, à Agrippine. Alors, du coup, on voit bien que, d'une certaine façon, il voit bien une image d'Agrippine, mais seulement si on se dit qu'il voit cette image en tant que formée par Lacléron, hein, agissant la partition qu'elle a établie conformément à l'Agrippine modèle, quoi. C'est un classique du régime propre de la fiction au théâtre, c'est-à-dire que on peut établir que acteurs et personnages, ce ne sont pas les mêmes, ça n'est pas la même chose, mais sur scène, d'une certaine façon, ils ne font qu'un. Dans le faire du jeu, ils ne font qu'un. Alors, qu'est-ce que fait Lacléron une fois sa partition de signes extérieurs établie? Le jeu de superposition des deux images, c'est-à-dire, me plaçant dans la position de Lacléron, ce qu'on voit de moi, hein, et ce qu'on voit de moi qui est conforme à ce que j'ai vu d'Agrippine. D'accord? Donc cette superposition-là des deux images la laisse, c'est un des traits frappants de la pensée de Diderot, à une certaine vacance intérieure. C'est-à-dire, elle contrôle, mais comme le conducteur d'un train qui est tout à fait sur ses rails, elle contrôle, elle doit être attentive aux embûches, garder un œil sur le bon déroulement de l'affaire, mais elle peut tout aussi bien se laisser aller à penser à un amour, au repas de midi, etc., etc. Donc, en aucun cas, ça c'est l'espèce de, vous savez, de grossissement, d'exagération que fait Diderot avec la célèbre scène où des acteurs sont en train de jouer et un sous-dialogue, ils jouent une scène d'amour et ils se pourrissent violemment. Pour accentuer simplement le fait que l'acteur, évidemment, n'est pas le personnage, ça c'est la chose que Diderot cesse pas de répéter. Le public croit voir Agrippine quand il ne voit que les signes d'Agrippine, d'accord, produits par Lacléron. Le personnage, c'est important, parce que je crois que ça rejoint cette idée fondamentalement que le personnage n'existe pas. Dans le cadre de cette pensée-là, le personnage, c'est une illusion d'optique. D'accord. C'est-à-dire jouer, c'est d'une certaine façon produire une sorte de mirage, c'est-à-dire faire croire à la présence de quelque chose dont on n'a en fait que les signes. On ne voit jamais directement Agrippine, puisque effectivement, elle n'existe pas dans la nature. Par conséquent, c'est tout à fait absurde de dire que Lacléron est Agrippine elle n'est pas Agrippine, elle ne devient pas Agrippine. Et là, je pense qu'il faut voir que le régime, le jeu comme fiction, suspend précisément le régime de l'être et du devenir qui gouverne, lui, la nature. Hein, c'est-à-dire qu'entrer dans la question de la fiction, entrer dans la question de l'imitation, c'est sortir précisément de la sphère de l'être et du devenir. Et Lacléron, elle est l'opératrice, elle, tranquille et laborieuse de ce mirage-là, quoi. C'est ce que dit Diderot, je vous résume en disant Lacléron n'est pas le personnage, elle le joue, et le joue si bien que vous la prenez pour telle, l'illusion n'est que pour vous. Elle sait bien, elle, qu'elle ne l'est pas. Étant entendu que l'illusion, c'est aussi un terme très très abusif dans en général la pensée du théâtre, c'est-à-dire personne n'a jamais cru véritablement que tout d'un coup Agrippine était là, hein. C'est-à-dire ça sert à désigner des régimes de crédibilité, voilà. Alors, dans ce cadre-là, un deuxième point que je voudrais aborder, c'est toujours au cœur de cette relation entre l'acteur et le personnage, pointé des configurations qui ont, je dirais, désigné comme une sorte de limite au jeu. Le premier théoricien et praticien là, que je voudrais convoquer, c'est Stanislavski, qui va dire précisément sur cette question du jeu, en partant des mêmes termes, acteur-personnage, il va essayer de réduire d'une certaine façon la fracture, mais seulement à partir de ce présupposé, c'est qu'il y a quelque chose qui ne se joue pas. Il y a quelque chose qui ne se joue pas et qui ne peut donc qu'être vécu. Et ce quelque chose-là, c'est ce qu'il appelle l'émotion. C'est ce qu'on peut, si vous voulez, appeler un hamlétisme de Stanislavski. Hein. Il y a ce qu'on peut jouer en arborant des signes extérieurs opposé à ce qui ne peut se feindre. Et c'est Hamlet au début qui dit voilà, je pourrais porter les vêtements du deuil, je pourrais donner tous les signes extérieurs de la tristesse, mais je refuse de le faire parce que j'ai en moi ce qui ne peut se feindre. Et tout le travail psychotechnique de l'acteur, ça va consister à tendre des leurres pour que l'émotion sorte naturellement de la tanière, si vous voulez, où la présence du public, comme créant une situation artificielle, l'avait conduite à se cacher, quoi. Donc c'est tout le travail que Stanislavski fait sur l'élaboration des circonstances imaginaires, que je ne vais pas développer là maintenant, mais qui part quand même de cet outil, c'est juste un moyen mémotechnique, hein, de dire, moi, si j'étais dans la situation du personnage, pour engager simplement chez l'acteur des crédibilités assez fortes pour que la nature et l'émotion naturelle s'y laissent prendre. Donc il ne s'agit pas ici de se conformer à un personnage ou à un modèle, mais de faire en sorte de trouver les zones communes entre la situation imaginaire du personnage et la situation existentielle de l'acteur pour arriver à ce point ambigu de non-jeu, hein, que Stanislavski appelle l'état créateur, dans lequel finalement, c'est comme si on surfait sur une vague émotionnelle naturelle, quoi. Bon. Alors évidemment, on en a fait des tonnes sur cette histoire de non-jeu. Je pense qu'il faut toujours entendre ce terme qui, même chez Stanislavski, est affecté d'une grande ambiguïté. Enfin, ambiguïté qui a sans doute permis d'ailleurs tout un certain nombre de pratiques, notamment les pratiques américaines de cette chose-là, élaborer l'acteur studio, voilà. J'entendais récemment le rapport d'un dialogue entre Dustin Hoffman et Laurence Olivier sur le tournage de Marathon Man. Dustin Hoffman, c'est un film où il court beaucoup. Dustin Hoffman faisait des tours de pâté de maison en courant comme ça pour avoir l'air, pour sentir l'épreuve du souffle et tout ça. Et Laurence Olivier, qu'il était censé poursuivre, donc il devait être tout aussi essoufflé vu que c'était aussi un vieux monsieur. Dustin Hoffman lui disait, mais comment vous faites pour... Et Laurence Olivier, un bon acteur britannique, lui disait, je joue. Voilà. Donc il y avait là un écart posé de méthode radicale, quoi. Alors la deuxième limite, je pense que toujours dans le cadre de cette configuration là, acteur-personnage, qui a été pensée et tentée, je crois que c'est Stanislavski, c'était ça, l'émotion ne se joue pas, donc un point de non-jeu. Et l'autre grande tentative, c'est celle de Brecht, qui consiste à dire, qui consiste à montrer le jeu. Alors, qu'est-ce que ça veut dire cette histoire de montrer le jeu? Il dit Brecht. Pour représenter des personnages, vous voyez, dans le cadre, il est tout à fait établi, pour représenter des personnages, le comédien doit leur opposer des intérêts notables, de la nature de celui qu'il aurait à la transformation de ces personnages. Il doit en quelque sorte éduquer ceci. Ainsi, chaque personnage comporte deux moi contradictoires, dont l'un est celui du comédien. Le comédien, en tant que tel, prend part à l'éducation, à la transformation planifiée de ces personnages par les spectateurs. Il lui appartient de la susciter. Lui-même est un spectateur, et ce spectateur est le second personnage que le comédien doit ébaucher. Alors, il nous dit, Brecht, dans le personnage déjà, le personnage contient deux moi, le moi du personnage et le moi du comédien en tant que spectateur du personnage. C'est-à-dire que le public... La position du public va, telle qu'elle est à construire, telle qu'elle est à mettre en place, à mettre en acte, c'est que le public voit ces deux moi, le moi du personnage et le moi du comédien voyant le personnage, mais qui est donc du coup un deuxième personnage. c'est pas du tout une sortie de jeu. C'est au contraire un redoublement, c'est-à-dire c'est jouer deux personnages. Le personnage, le moi du personnage et le moi de l'acteur spectateur du personnage. C'est-à-dire que voilà, je suis en tant que comédien vu, je suis vu en tant que le personnage de la fable et en tant aussi que cet autre personnage qu'on appellera le personnage du comédien voyant le personnage. Et donc, comme je disais, il faut jouer les deux, quoi. Donc, l'acteur, là aussi, vous voyez les points de, à la fois les points de rencontre et les points de dissensus entre les deux positions, c'est l'acteur comme opérateur, comme sujet. Il part bien de ce réquisite-là qui règle la duplicité imaginaire, c'est-à-dire, moi, si j'étais dans la situation du personnage, mais de ce rapport-là, chez Brecht, il ne ressort pas une conformation, mais au contraire, une contradiction. Alors, ça ne veut pas dire du tout que l'acteur, opérateur du jeu, il est en contradiction avec ce qu'il joue, mais qu'il doit jouer, rendre visible la contradiction elle-même. Et que pour ça, il n'a pas d'autre choix que le faire apparaître à travers, finalement, le dédoublement du personnage lui-même, quoi. Faire du personnage deux personnages. Par où, précisément, pour Brecht, il s'éduque en faisant, il s'éduque à la dialectique, et en même temps, le jeu devient une sorte, pour Brecht, de dialectique éducative. Voilà, il y a les deux choses. Je finis avec la troisième duplicité, pendant que Jean-Yves regarde sa montre, que j'ai appelée la duplicité scénique. Donc je vais m'expliquer sur ce terme-là. En gros, si on suit l'hypothèse historique telle que moi je l'ai entendue pour la première fois formulée par Guénoun dans un de ses textes, c'est une hypothèse historique qu'il extrait d'un texte de Eisenstein sur Diderot, qui dit que le fantasme théâtral tel que Diderot en a été l'artisan, d'un art qui soit finalement qui produise des fantômes, hein, qui produise des fantômes de la nature, cette chose-là a été pleinement réalisée par le cinématographe. C'est-à-dire que c'est lui qui maintenant fait jouer à plein précisément les fantômes, c'est lui qui fait jouer à plein les mirages, et c'est ces images-là auxquelles vont aujourd'hui les identifications les plus puissantes du spectateur. Donc à partir de là, il faut redéfinir les possibilités de la scène. Et je crois que le travail scénique, précisément, aujourd'hui, il se présente comme la mise à jour de la puissance que la situation scénique par elle-même recèle. Il travaille la tension scénique elle-même, les coordonnées de toute situation théâtrale. Et en tout premier lieu, à mon avis, ce qui fonde la situation théâtrale, c'est-à-dire la relation acteur-public. Donc l'hypothèse que je formulerai consiste finalement à hisser la duplicité de l'acteur au statut d'a priori de la situation théâtrale. Ce qui exige, je crois, de repenser la notion de jeu pour en faire non plus ce qui règle le rapport entre l'acteur et une altérité advenant sur la scène, un autre ou un personnage, mais qui sert à désigner ce qui se passe entre des acteurs et du public. Ça pourrait être une autre forme de pensée de ce qu'on appelle le jeu. C'est à partir de cette relation-là que je crois qu'il faut imaginer le destin de la duplicité comme constitutive donc de la relation acteur-public. Alors comment elle est constitutive ? Je voudrais indiquer deux tendances, il me semble. Alors là, vous reconnaîtrez la tendance théâtre-théâtre dont finalement je suis un militant, et puis une autre tendance qui est difficile à qualifier, que je vais essayer de caractériser un peu, mais qu'on pourrait dire post-moderne, disons. Je sais pas comment. Vous allez voir ce que c'est concrètement, et puis on en reparle après. En tout cas, une première piste pour penser la relation, la duplicité qui serait constitutive de la relation acteur-public, c'est de penser ce que c'est que des joueurs. Bon. Alors, on va revenir après sur cette histoire de joueurs. Ce qui fonde cette relation acteur-public, c'est d'abord le fait que l'acteur soit vu. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de pensée de l'acteur, je pense, possible, et de pratique de l'acteur possible, d'ailleurs, ça c'est une chose certaine, sans public. Il n'y a pas de public, l'acteur ne joue pas. Hein, c'est-à-dire le fait que l'acteur soit l'objet des regards. C'est ce qui définit pour les acteurs le seuil de la mise en jeu. Hein, c'est justement d'abord une relation spatiale liée au regard, c'est-à-dire à partir d'où est-ce que je suis à vue. Bon. à partir d'où suis-je vu des témoins rassemblés. Et cependant, pendant le temps où il est vu, l'acteur, je crois, fait sien, et c'est ça la condition du jeu, ce que je donnerai ici sous la forme d'un petit théorème, que j'appellerai le théorème de Iago, si vous n'y voyez pas d'inconvénient. Théorème de Iago, une phrase de Iago dans Othello, donc, qui dit « Je ne suis pas ce que je suis. » Je ne suis pas ce que je suis. Théorème qui se développe ainsi, à mon avis, « Je ne suis pas ce que, comme objet des regards, dans la situation présente, je suis. » Ou encore, précisément, « Je ne suis pas moi. » Si on s'avise que le « moi » est précisément cette construction qui advient du regard de l'autre et dont le miroir témoigne, comme on le sait un tout petit peu mieux depuis Lacan. Donc, si je ne suis pas ce que comme objet des regards je suis, cela signifie qu'il y a un écart entre ce que vous voyez et ce par quoi vous me constituez comme objet et puis ce que je suis. D'ailleurs, ce « je ne suis pas ce que vous voyez » peut s'entendre aussi, c'est le peut-être... C'est pour ça que le théâtre exhibe toujours le nerf de la relation de croyance, fondamentalement. C'est aussi « je ne suis pas ce que vous croyez ». Voilà, « je ne suis pas ce que vous croyez ». Mais si je ne suis pas ce que je suis, si je ne suis pas intégralement réductible à cet objet dont la situation théâtrale fait l'objet des regards, qu'est-ce que je suis ? Alors je dirais, je suis le sujet d'une action. Je suis d'une certaine façon sujet de cette action d'être vu. Alors, vous voyez, c'est une phrase à la fois tordue qui met à la fois au premier plan la question de l'action et en même temps une forme de passivité. Mais je crois qu'on sait que le jeu de l'acteur repose aussi sur cette espèce de curieux va-et-vient véloce entre ce que c'est que l'activité et ce que c'est que la passivité. Mais bon, en tout cas, sujet de l'action, ici, ça suppose que ce sujet, précisément, est un effet de cette action par lequel il est, si on peut dire, fractionné. Je, moi. C'est-à-dire c'est que par le fait qu'il est vu, c'est que par la situation publique dans laquelle il se trouve, que cette division est opérée. C'est que finalement... voilà. Et c'est très important aussi, comme fondement de la situation théâtrale, c'est une remarque en passant, qu'on pense évidemment le public... Hein, et pas simplement le spectateur ou autrui ou un autre. C'est-à-dire, c'est un « on », le public. C'est le fait qu'on me voit qui produit précisément cette division entre ce « moi » qui est fixé et puis ce « je » qui agit et qui ne cesse de on pourrait dire d'une certaine façon, ce « moi » qui m'identifie et puis ce « je » qui continue à faire jouer infiniment des identifications surprenantes, quoi. Je crois que c'est ça ce qui pose le fond de l'acte de l'acteur. Donc, ce qui est activé, en l'occurrence, c'est une division. C'est-à-dire, pour moi, ce n'est pas une multiplication ni une duplication. L'acteur, ce n'est pas celui qui a de multiples identités. Au contraire, je crois qu'il ne peut même pas être pensé sur ce mode, précisément, de l'identité. Et c'est pourquoi le théorème de Iago a une tournure négative, que vous aurez remarqué. Hein, c'est-à-dire qu'il dit d'abord ce que je ne suis pas. Hein. Ce théorème, on a d'abord l'impression qu'il tourne en rond, comme un chien qui court après sa queue. Mais c'est important quand même de se dire que l'amorce, comment il s'amorce, c'est par une sorte de déjà de négation. Quoi. Hein, s'il dit ce que l'acteur n'est pas, c'est, je crois, pour nous renvoyer précisément à l'action de l'acteur, à ce faire spécifique par lequel il n'est pas ce qu'il est. Bon. Alors, un dernier mot là-dessus, sur ce que du coup j'appelle les acteurs joueurs, et pour vous en donner une analogie, qui comme toutes les analogies est limitée, mais voilà, qui aura peut-être le mérite d'éclairer la chose, je dirais que si je devais le comparer à un type de jeu, ce serait le poker. Voilà. C'est-à-dire qu'il y a dans le jeu de l'acteur quand même toujours quelque chose d'une mise subjective, absolument innommable. On ne sait pas ce qu'il y a dans notre jeu. Hein. Mais ce qui compte quand même, comme au poker, la mise, c'est quand même la question de la quantité. Je crois que l'acteur, c'est celui qui finalement arrive à transformer la qualité en quantité. Il y a un rapport à la dose, je crois, chez l'acteur. à combien je mets. Voilà. Je pense que c'est aussi pour ça que beaucoup d'acteurs sont alcooliques. Que ça n'est pas sans lien, cette chose-là. Mais qu'il y a un rapport à la quantité, et qu'il faut miser cette chose-là, et que cette mise-là, elle se fait sur la base d'une opacité. C'est-à-dire que c'est pas transparent, l'acte de l'acteur. Parce qu'il est dans cette logique de je ne suis pas ce que je suis, je ne suis pas moi, je ne suis pas ce que vous croyez, etc. Et que c'est cette duplicité-là qui fait. En même temps que la mise, elle se fait absolument en commun. Elle se met au pot commun. Et c'est pour ça qu'elle peut être. Qu'elle est mise en jeu. Voilà, qu'elle est mise en jeu. Et que personne ne rafle la mise tant que le jeu dure, comme au poker. C'est toujours posé au milieu, c'est commun. Voilà. Et c'est ça, peut-être, qui fait la relation. Le commun sur lequel travaille le rapport entre les acteurs et le public. Un acteur qui viserait à récupérer son bien, bon, on en connaît aussi, hein, c'est-à-dire c'est des acteurs qui essayent qui misent un peu pour en retour y faire un bénéfice narcissique voilà, non négligeable, le plus grand possible. Bon. J'arrête sur cette question-là pour simplement vous attirer votre attention sur une autre tendance, appelons-la la postmoderne si vous voulez, mais qui serait la question de la réduction de la duplicité. La réduction de la duplicité par cet acte paradoxal qui serait montrer le non-jeu. Montrer le non-jeu. C'est très actuel. J'ai lu ce matin une critique dans Le Monde d'un spectacle où ils disent opposer un spectacle vieux modèle et un spectacle top tendance. Le spectacle top tendance était caractérisé par le fait que ça travaillait le non-jeu. Donc c'est une chose qui est officiellement reconnue comme une sorte de mode ou de manière en tout cas de nommer des pratiques. Alors le non-jeu, il faut entendre, vous voyez, montrer le non-jeu, il faut entendre par rapport à ce qu'on a dit précédemment, vous voyez bien quelque chose d'une sorte d'inversion du brechtisme. C'est-à-dire que l'accent est mis sur l'acte de monstration, mais d'un non-jeu. D'accord ? Et en même temps, il y a une sorte de retour paradoxal à un naturalisme, c'est-à-dire si on met l'accent sur ce qui ne se joue pas, mais sans le passage par une figure fictionnelle. C'est-à-dire, qu'est-ce que ça va être que le non-jeu, finalement, sans la notion de personnage. Alors, il y a deux voies, et après, j'ai fini, pratiquement. Il y a deux voies, vous y reconnaîtrez peut-être des proches ou des adversaires. Je dirais la première voie de jeu, comme type de jeu, c'est celle du détachement qui remplacerait, si vous voulez, la distance brechtienne, ou de la dérision qui remplace l'étonnement. C'est le fait de jouer entre guillemets. C'est une sorte de détournement de la consigne de Brecht, qui Brecht disait, il conseillait de citer. Et il y a un type de jeu aujourd'hui qui, pour mettre finalement le texte loin de soi, joue entre guillemets. C'est, je crois, un type de jeu où l'acteur, enfin, ou de non-jeu, où l'acteur montre au public qu'il a tué le personnage, hein, et il s'adresse à lui par-dessus la dépouille du personnage, en lui faisant un clin d'œil. Donc c'est l'acteur complice. C'est le contraire de l'acteur duplice, c'est l'acteur complice. Complice de, en l'occurrence, la mort du personnage. Et la deuxième voie, qui est le fait de montrer ce qu'on ne peut pas jouer. Montrer ce qui ne peut pas se jouer. C'est-à-dire l'irrépétable en tant que tel. Alors là, il y a plusieurs... Ça, cette tendance-là, elle est quand même centrée, je crois, sur la question de l'acte irrépétable. C'est-à-dire, c'est... Garcia qui fait tondre les femmes sur la scène, ou alors la promotion, c'est-à-dire elle se fait vraiment couper les cheveux, elle ne joue pas, il n'y a pas de jeu là-dedans, elle se fait vraiment couper les cheveux, ou la promotion sur scène de ceux qui ne jouent pas, c'est-à-dire les animaux, c'est-à-dire les nourrissons, c'est-à-dire les handicapés des fois, même s'il y a des zones de jeu. Ou ce qu'on appelle en règle générale les vrais gens. Voilà, la présence des vrais gens sur scène. Et ça, je pense quand même que c'est symptomatique d'une espèce de décrochage de notre époque entre la question de la vérité et puis la question de la fiction. C'est-à-dire, qu'est-ce que c'est que cette qu'est-ce qu'on nomme exactement, qu'est-ce qu'on désigne exactement comme vérité, si vérité, c'est l'endroit du vraiment faire en tant que ça s'oppose à la fiction. Et donc, évidemment, voilà, l'irrépétable s'opposerait, je crois, à l'idée d'un théâtre qui serait précisément lié à un procédé de répétition aliénante, mais voilà. Ah, il faut changer d'acteur, oui, effectivement, ça fait une économie. Oui. Voilà, alors, j'ai fini et je voudrais, juste en conclusion, vous dire que ce qui s'oppose à la duplicité, c'est une conclusion qui rejoint le point de départ, finalement, c'est la simplicité. Et ce qui est simple, c'est aussi ce qui ne pose pas de problème. Voilà. Et je crois qu'il y a un certain nombre de spectacles qui sont très. Qui tiennent sur la violence de leurs effets ou la monstration d'un certain nombre d'actes, mais qui ne posent pas de problème autre que celui précisément de la limite du théâtre. Ce n'est pas, pas le théâtre posant des problèmes. Voilà. Et une autre définition du contraire de la duplicité, le simple, c'est, comme on dit d'un corps simple, précisément ce qui est indivisible. Voilà, ce qui est indivisible. Et ce que j'essayais de vous dire dans la dernière partie, précisément, c'était que l'acteur est celui qui faisait l'expérience d'une division, d'une scission comme ça subjective entre je et moi, hein, entre le sujet de l'opération et puis le moi dont il est, le moi qu'il est par l'objet des regards qui sont posés sur lui. C'est tout ce que j'avais à vous dire, donc je vous remercie.
Donc voilà, donc je vais passer directement là, parce que.
Bonsoir. Donc, je voulais. C'était des remarques, je ne sais pas si c'est des questions, enfin en écho à vos deux interventions qui étaient très intéressantes. Et il me semble que, justement, quand vous opposiez à la fin la duplicité, je suis très contente d'entendre ça. Enfin, l'éloge de la duplicité, parce que c'est vrai qu'il y a quand même encore une contamination dans les faits, je trouve, d'un éloge de la présence de quelque chose d'unidimensionnel. Et je crois que là-dedans, c'est un peu des restes de critique de la représentation mal digérée, quoi. C'est-à-dire qu'il y a des mots qui sont devenus un peu des interdits. Il me semble que la représentation est devenue un mot complètement interdit. Complètement ragard, oui. Et donc, mais des fois, on ne sait pas du tout pourquoi. Enfin, le personnage aussi, alors qu'en fait, bon, après tout, le personnage, ça peut être extrêmement divers. Le personnage, comme vous le rappeliez chez Diderot, c'est une fiction. Il peut être incorporé chez Decroux. D'ailleurs, dans les deux, je trouvais que c'était... Voilà, bon... c'est vrai qu'il y a un moment donné, quand on prend ça comme une substance et qu'on se dit, bah oui, alors est-ce que j'échange ma substance ? Bon, enfin, bon, voilà, mais finalement, bon, une fois qu'on se dit que c'est pas une substance et qu'après tout c'est une fiction et que c'est aussi une commodité, après tout. Je veux dire, quand on travaille en tant qu'acteur ou en tant que metteur en scène, c'est quand même un mot qui est très pratique. Sauf si, évidemment, on croit vraiment qu'on va le devenir. Enfin, bon, voilà. Mais en général, ce n'est pas comme ça que ça se passe. Enfin, on n'a pas besoin tellement de ces trucs. Donc, ça, merci beaucoup. Et je trouve que... alors, je voulais revenir à ce que vous aviez dit par rapport à cette polémique d'Avignon. Parce qu'il se trouve que moi, j'y étais en tant que spectatrice, que j'ai vu quelques spectacles. Du Hin, et que j'ai pas du tout aimé la manière dont les journaux ont parlé de cette polémique, qui, à mon avis, je pense qu'il y avait un problème un peu, hein, dans ce que j'ai vu. J'en ai pas vu beaucoup, j'étais pas très argentée, donc voilà. Mais j'en ai vu un peu dans le Hin, et c'est vrai que c'était pas très génial, mais ça n'avait rien à voir avec le fait que c'était du théâtre, ou que c'était pas du théâtre. C'est qu'en fait, il ne se passait pas grand chose, quoi. C'est-à-dire qu'en fait, on s'en fout un petit peu de savoir par quelle médiation. D'ailleurs, moi, je trouve ce qui est vachement important, c'est la question de la fiction, précisément. Et donc, qu'il y ait ces deux plans. Alors, ce que vous appelez la duplicité, je ne sais pas, mais ce qui est, par l'intermédiaire de l'acteur, mais sinon de manière générale, qu'il y ait ces deux plans qui soient conservés, qu'il y ait une possibilité de va-et-vient avec. Et qu'en fait, bon, moi, j'avais vu, par exemple, un spectacle du groupe Off, qui avait fait un spectacle avant, qui avait fait grand bruit, que je n'avais pas vu, malheureusement, c'était Rwanda 94, qui apparemment était assez réussi. Là, c'était un truc sur l'Ancien Testament, c'était assez intéressant comme idée, lire l'Ancien Testament et voir à quel point c'était extrêmement violent, très bien, sauf qu'à partir de là, il se passait strictement rien théâtralement, sauf qu'évidemment, à la fin, qu'est-ce qui se passait ? Parce qu'il fallait bien qu'il y ait un peu décor, il lisait. Eh bien, on avait des acteurs qui venaient se dévêtir... sur scène et qui formait un tas de vêtements et la seule image c'était Auschwitz, enfin donc le cliché, enfin c'était, c'est pas, j'ai rien, mais là c'était vraiment, en fait il y avait, alors pour le coup absolument pas de va-et-vient alors entre les deux, et on était vraiment dans une dimension. Et donc voilà, je trouvais que le point commun, c'était peut-être ça, c'est qu'il me semble que c'est pas forcément la question du médium, c'est pas le danse, pas danse, c'est la question du un plan ou deux plans. Et je connais, voilà, c'était tout, tout simplement un écho.
Pas si vous voulez donc réagir à ça, ou si quelqu'un d'autre a une question.
Peut-être là, après on n'a pas besoin de micro, enfin je ne sais pas si, si c'est. Ah pardon. Peut-être que je trouve que quand même Brecht est assez indépassable pour l'instant, parce qu'il y a précisément, vous avez une très jolie formule sur l'exhibition du nerf de la relation de croyance, et et je trouve qu'en fait, Brecht, il insiste vachement là-dessus. Enfin, il y a tout l'aspect politique. Mais moi, je ne sais pas trop comment expliquer ça. Je suis quand même assez frappée. Puis peut-être qu'il ne serait pas très content, quoi, Brecht, parce que justement, il parle à un moment donné, enfin, pas vers la fin, mais pas dans les premiers écrits théoriques. Il parle de. Qu'il faut laisser tomber l'appellation du théâtre épique et qu'il faut mieux parler de théâtre dialectique. Parce qu'on peut faire un usage complètement formel du théâtre épique. Et moi, alors, bon, dans un souci politique, hein, bon, voilà. Mais il me semble qu'en fait, on a gardé vraiment l'apport esthétique de Brecht, hein, et ça marche pas au niveau. Et pas. Enfin, c'est pas que ça marche pas, mais il n'y a pas les conséquences politiques. Mais l'efficace, elle est vraiment là. Non ? Qu'est-ce que vous en pensez ? L'efficace, elle est. Il me semble qu'elle est là.
Oui, oui, oui. Non, je crois que c'est juste, c'est-à-dire que ce qu'on, mais encore une fois, ce qu'on garde, c'est la forme. Précisément, Brecht, la question qu'il a posée, c'est jamais posée en termes formels, mais précisément en se demandant qu'est-ce que la pratique du théâtre en elle-même produit comme effet éducatif. C'est-à-dire, c'est l'histoire des pièces, comment on les appelle, les pièces d'apprentissage, hein, voilà, où c'est la pratique elle-même du théâtre qui, en tant que telle, nous ouvre sur la dialectique, quoi. Donc ça, du coup, c'est une chose qui n'est pas transposable, je pense, qui n'est pas, évidemment, c'est comme si on disait, est-ce qu'on peut garder la forme de la dialectique en supprimant précisément le jeu dialectique lui-même. Est-ce qu'on, pour dire tout à l'heure ce qu'on disait, est-ce qu'on ne peut garder de la dialectique que la forme dialoguée ? C'est pareil, quoi. C'est-à-dire, c'est effectivement la forme que ça prend et pas les transformations effectives que ça produit. Et ça, je pense que quand même, Brecht, il n'est jamais sorti de cette question-là. Je crois que c'est vraiment, pour lui, c'est pour ça que c'est pas la question d'un théâtre politique, au sens où ce serait un théâtre qui exemplifierait quelque chose d'un déroulement politique, c'est que c'est la pratique elle-même qui implique une certaine saisie politique, quoi. Donc la forme n'est pas déplaçable. Ce qui n'empêche pas qu'on ait gardé sans doute des procédés. Oui, mais je pense qu'ils sont les retombées des procédés brechtiens. Par exemple, que j'essayais de nommer en disant qu'est-ce que ça veut dire d'être passé de la distance au détachement, qu'est-ce que c'est que d'être passé de l'étonnement, c'est quand même ça, de dire qu'est-ce qui m'étonne dans ce personnage qui fait apparaître un écart, à la dérision. Ces glissements-là, ils sont, je crois, idéologiquement à l'œuvre, quoi. Donc.
Donc une autre question. Donc juste par rapport à ce que vous disiez, c'est vrai que je suis d'accord pour dire qu'en effet, après tout, ce qui importe, c'est que ce soit quelque chose, enfin je veux dire quelque chose de bon, entre guillemets, quel que soit ce que c'est.
Sur deux plans.
Oui, enfin, après la manière dont on analyse que c'est bon, par exemple, peut-être ça, bidimensionnel, mais il faut que ce soit quelque chose de bon. Donc, par rapport à ce que je disais, est-ce que c'est du théâtre ou du théâtre comme tu disais, peut-être postmoderne, c'est comme si tu rangeais dans toute une catégorie quelque chose qui n'était pas bon en soi, alors que...
Non, mais c'est pas, je disais, c'était pas un classement moral, c'était après, de détacher, de voir comment
pas ça. Pas moral, se, là, je pense s'effectue. Simplement sur le temps esthétique. Quoi. Il faut que ce soit, enfin, bon, que ce soit une œuvre, quoi. Que ce soit une œuvre, quoi que ce soit, quoi.
Ce sont des modes opératoires qui,
je pense, qu'ils essayent de poser. Oui, mais après, c'est oui, tout à fait. Après, c'est le résultat esthétique, quoi. Donc, question.
Moi aussi, c'est un peu sur le même domaine. En fait, je voulais reprendre des choses à propos de Brecht, en fait, que vous disiez tout à l'heure. Et en fait, enfin, moi, je suis pas. Par contre, je pars pas du principe que Brecht est indépassable. Mais par contre, il y a une chose qui m'a surprise. Enfin, je pars pas de l'hypothèse, disons. Voilà. Il y a une chose qui m'a surprise, en fait, dans votre formulation, quand vous parliez de Brecht. J'ai pas forcément noté très précisément, mais quand même. Vous parliez de deux personnages. Le personnage et, si j'ai bien noté, le personnage du comédien voyant le jeu.
Pas voyant le jeu. Voyant le premier personnage.
Voyant
le premier personnage. Non, pas ce voyant jouer. Je pense que ça correspond précisément à deux. Il dit dans le personnage, il faut déceler deux moi, c'est-à-dire voir en quoi il y a une contradiction à l'œuvre dans tout personnage, ce que Brecht analysait comme une contradiction une contradiction entre de divers types d'intérêts, et que l'acteur doit, à partir de ça, créer un personnage qui est le personnage du témoin, on pourrait dire, du premier personnage.
D'accord.
Il crée entre les deux. Voilà,
écrit j'ai bien compris,
voilà,
d'accord.
Ouais, c'est ça.
Voilà. L'acteur doit créer un personnage qui est le témoin de... D'accord.
Voilà.
Et c'est le terme de personnage là-dessus qui me surprend. Enfin, me surprend. Disons que je n'attendais pas parce que je n'ai pas en tout cas en mémoire de texte où justement ce regard de l'acteur sur son personnage qu'il est en train de... Enfin, celui qu'il joue, sur le personnage qu'il joue, soit associé à un deuxième... personnage. C'est le mot personnage qui me surprend. Et alors, j'explique pourquoi. Du coup, moi, je pose la question. Qu'est-ce qui vous amène à utiliser le terme de personnage pour ce deuxième... J'explique, je continue. Ah, d'accord.
Non, c'était juste pour dire que le terme, il était dans le texte de Brecht que je citais d'abord. C'est-à-dire, il dit, lui-même est un spectateur, et ce spectateur est le second personnage que le comédien doit ébaucher. C'est dans le texte de Brecht que je donnais en ouverture.
Okay. Parce que je dis ça parce que si c'est une traduction, voilà, j'ai peut-être pas la même, c'est possible, je l'ai pas si précisément en mémoire. Parce que si en fait le terme de personnage pour cet acteur, pour ce deuxième personnage, n'intervient pas, en fait on revient énormément à la deuxième chez Brecht, on revient énormément à la troisième duplicité qui est scénique. Et donc, du coup, je pense que c'est quand même important parce que Brecht ne se situe pas pareil dans votre exposé, je parle. S'il n'y a pas de notion de personnage sur cet acteur, s'il n'y a pas ce deuxième personnage, si c'est l'acteur directement, je dirais, en tout cas pas avec la notion de personnage, alors Brecht propose directement la deuxième duplicité, la duplicité scénique. Et je pense que c'est très différent, notamment sur ce qu'on peut utiliser de Brecht et ce qu'on ne peut pas réutiliser de Brecht aujourd'hui. Je pense que ça change vraiment le propos, quoi.
Ouais.
Voilà, donc c'est ce que je voulais dire.
Ouais. Mais je suis absolument d'accord avec ça. Ouais. Ouais. Après, ce qui peut-être distingue les deux choses, c'est que je crois que précisément le second personnage que Brecht invite le comédien à élaborer, c'est celui qui aussi regarde le public. Comment on pourrait l'imaginer dans certaines modes de la duplicité scénique ? Sauf que regardant le public... il lui fait tout, je crois, chez Brecht, sauf des clins d'œil. C'est-à-dire que le regardant le public, il lui dit « Vous avez vu ça ?» C'était justement la question de l'étonnement que je posais. C'est-à-dire qu'il y a un autre personnage à côté du personnage qui dit « Vous avez vu ça ? Vous avez vu ce que je viens de jouer ?» Voilà. Et c'est d'une autre nature, parce que du coup, ça, je crois que ça maintient aussi une relation de jeu, qui n'est pas une position, effectivement, de témoin, et qui est justement pas précisément une sortie de jeu. Alors on pourrait dire il n'y a jamais de sortie de jeu, ça qui est une espèce de paradoxe possible, et que tout corps placé en scène est un corps de fiction d'une certaine façon. C'est vrai, quoi. Je pense qu'il y a quelque chose qui travaille comme ça au théâtre, c'est-à-dire que voilà, on ne peut pas s'en sortir, On ne peut pas s'en sortir de cette affaire de fiction. Néanmoins, on peut produire les marques de la sortie, les sorties de cette chose-là, ou jouer avec ces limites-là, et dire tout d'un coup et faire apparaître quelque chose qui serait voilà, de l'ordre de ce que vous appelez l'acteur immédiatement, ou ce que dans l'autre tendance serait la chose qu'on ne peut pas jouer, etc. Vous voyez ce que je veux dire ?
Oui, oui, je voudrais pas accaparer, mais oui, je vois simplement la question de la fiction se pose autrement, en tout cas chez Brecht, si on ne peut pas employer le terme de personnage pour l'acteur. Elle se pose vraiment autrement, je pense. Parce qu'effectivement, l'adresse publique directe est extrêmement importante dans le rapport. Je pense, par exemple, que directement, ça, moi, je pense que Brecht pose directement le jeu comme rapport acteur-spectateur, d'abord, avant toute chose. Donc ça, ce que vous donnez pour la troisième duplicité.
Oui, mais ce rapport-là, j'essaie de penser le rapport, cette duplicité scénique. Quand je dis c'est un a priori de la situation théâtrale, que c'est comme ça que je pense qu'aujourd'hui, cette nouvelle duplicité se découvre à nous, parce que finalement, on a enlevé un certain nombre de dimensions ou de modes de pensée de cette duplicité-là. Je pense que si je dis que c'est un a priori de la situation théâtrale, c'est que c'est quelque chose qui travaille la situation théâtrale elle-même, et je pense aussi bien à l'époque de Brecht, aussi bien à l'époque d'Eschyle. Ça ne travaille pas de la même... Vous voyez ce que je veux dire ? C'est-à-dire, ce que ça sous-tend, ce que je dis, c'est qu'il y a aussi, essayer de penser ce que c'est que la situation théâtrale dont aujourd'hui, peut-être, on commence à apercevoir beaucoup plus nettement l'armature, parce qu'on a de plus en plus affaire au squelette de cette situation-là, eh ben, je pense que ça nous fait apparaître quelque chose qui, effectivement, relève d'un a priori de la situation théâtrale. C'est compliqué, parce que ça voudrait dire qu'il y a une espèce de... Il y a une espèce d'invariant de la situation théâtrale. Voilà. Mais ça, je le crois, même si les situations sont travaillées différemment et que à chaque fois, ça renvoie à des situations pratiques, historiques, idéologiques, complètement différentes. Mais c'est quelque chose qui travaille quand même l'art du théâtre, je crois, qui est lié à l'art du théâtre. Donc, dans le troisième, ouais, c'est un peu comme si je disais... c'est le moment où on voit l'art du théâtre qui exhibe ses fondements. Mmh. Voilà. Et peut-être.
Oui, par rapport à Brecht, justement,
là où je disais un petit peu, c'est que je trouve qu'il est... bien sûr qu'il y a il y a le rapport au public, ça c'est vachement important, mais il n'y a pas que chez lui d'ailleurs, cette époque-là, c'est quand même un mouvement, je sais pas, chez Meyerhold, c'est très important aussi, un peu avant, mais il y a l'adresse au public, mais j'ai l'impression que Brecht a été quand même extrêmement simplifié et qu'il faut toujours se remettre dans la tête la question de dialectique, à savoir que il y a précisément, c'est pour ça que ce passage-là, mais il y en a plein d'autres, où il y a le personnage et l'acteur qui voit le personnage et ça fait un deuxième personnage, c'est-à-dire qu'il y a une affirmation aussi du niveau traditionnel de l'identification, même si on sait très bien qu'elle n'est jamais totale, etc. Et lui-même, il y a plein de passages où il dit que... d'ailleurs, c'est dialectique ce mouvement. Il intègre l'identification dans le mouvement dialectique pour proposer autre chose. Et donc, ce que je trouve vachement intéressant, et ce que j'appelais un peu indépassable, j'en sais rien si c'est pas. Mais ce que je trouve vachement intéressant, c'est justement cette question de la tension entre ces deux modes de jeu. Et qu'on a voulu tendre, on a voulu mettre Brecht, justement, le didactique, où ça va être l'adresse publique directe, et c'est ça. Et du coup, ramener Brecht à une sorte, justement, de truc unilatéral. Alors que, précisément, quand on le lit, et parce que je pense aussi qu'il y a c'est un praticien aussi, quand on le lit, on voit bien qu'il n'y a pas il y a toujours cette tension que lui prend... je ne sais pas très bien comment il faut dire. La tension, ce n'est pas tout à fait la dialectique marxiste, ok. Mais c'est la version peut-être artistique, et donc pas tout à fait pure, de la dialectique marxiste dans le théâtre. Cette version que je trouve d'une efficacité esthétique très grande et qu'on retrouve chez De Croo, c'est la question de l'opposition, de la tension, alors là, après... et voilà, c'est ça que je voulais dire. C'est peut-être en ce sens-là que vous compreniez peut-être. Enfin, je sais pas, mais je trouve que voilà, quand on lit les écrits de Brecht, on voit vraiment bien que c'est pas simplement de l'adresse publique et c'est pas simplement et qu'il faut aller, il faut être dans l'identification et il faut nier l'identification et on ne peut pas nier l'identification si on n'a pas été dans l'identification avant. Et c'est vraiment ce va-et-vient qui est vachement intéressant, quoi. Enfin, voilà.
Donc, merci merci donc pour vos deux interventions, Elisa Comano et Eric Zobel. Donc, merci pour vos questions. Donc, bon, je vais conclure. Bon, juste en effet, là, un mot très rapide. Hein, on a vu en effet, toujours encore une fois, le rapport double identification, etc. Ça, je vais pas. On a vu tout ce que ce travail est différent avec la notion aussi de duplicité. Mais bon, voilà, je pense qu'il y aurait beaucoup à dire, mais là il est un peu tard, donc je vais conclure en remerciant donc tous les intervenants. Donc je remercie donc tous les intervenants qui sont intervenus donc pour ces deux soirées, donc Alain Charard-Méjean, Natacha Punier, Samuel Tronçon, Ismaël Jude et Denise Guénoun et Olivier Sacomano et Eric Zobel. Donc merci pour leur intervention. Donc je remercie aussi donc la Maison Populaire et la directrice Annie Agopian donc de nous avoir invité de permettre donc ces séminaires à la Maison Populaire de Montreuil. Et donc je vous remercie.
Voilà.